t'enlèveras le début, hein, sinon.
Ah non.
Moi, on n'a plus le droit de dire des conneries maintenant.
Je parle, moi. Oh, ah ouais.
Depuis mon erreur. 81, il va sur ses 91.
Merci d'être venu.
Regarde, il y a de la place. Là. Ah, mais si tu retousses.
Non, mais j'ai rien à dire. On est content d'accueillir Baptiste qui
vit
200 ans plein à la ZAD, mais qui fréquente la ZAD depuis très longtemps. Et qui fait partie du collectif qui a écrit, de 4 personnes, je crois, qui a écrit ce bouquin dont on a un petit peu parlé.
Ah oui, ils font bien.
Et la soirée, c'est aussi ce prétexte de au-delà du livre que Baptiste nous relate un petit peu où en est la ZAD actuellement, les discussions, les débats qui la traversent. Voilà, on a un peu une information un peu de première main sur les réflexions de nos amis là-bas. Quoi. Voilà. Moi, je te laisse la parole, hein, sachant qu'on a dit qu'on son exposé serait court et puis qu'on favoriserait les questions, quoi.
C'est tout.
Et ben merci de m'accueillir. On peut rencontrer tout le monde, c'est bien. Et ouais, bah je prévois rarement grand chose parce que justement, en fait, ça dépend tellement des gens, les intérêts qu'ils peuvent avoir. Entre des moments où on parlait, on discutait beaucoup du bouquin, des fois beaucoup de l'histoire de la ZAD. Parce qu'il y a beaucoup à dire aussi sur l'histoire de la lutte contre l'aéroport. Aussi, à chaque fois, je fais un peu la petite blague de tout ça, c'est aussi dans le bouquin. Du coup, je peux profiter à répondre à quelques questions, mais c'est sûr que dans le bouquin, on a mis tout ça. Du coup, je vais pas m'étaler sur raconter l'histoire de la lutte, l'aéroport, la ZAD. Parce qu'en fait, en général, j'arrive pas à le faire court. Du coup, ça prend trop de temps. Mais je sais pas, je peux essayer de dire deux mots sur déjà comment j'en suis arrivé à écrire ce bouquin, deux, trois trucs sur un peu les grandes lignes de l'aéroport, de la lutte contre l'aéroport, de tout ça. Et puis assez rapidement, vous me dites ce qui vous intéresse et puis on en discute, quoi. Ce que je te racontais tout à l'heure sur le livre, il y a un truc un peu marrant, c'est que moi je suis pas spécialement littéraire du tout. Je pensais pas du tout écrire un livre un jour. Mais je trouve que cette histoire, elle résonne avec l'histoire d'aussi à la ZAD où on apprend à tout faire et on fait plein de trucs où de ce qu'il y a besoin à un moment et aussi on dépasse des trucs de formation ou je sais pas quoi. Tout est possible, quoi. Enfin, il y a plein de trucs possibles. Et je faisais des études d'archi et je devais faire un mémoire d'archi et qui peut être assez libre, hein, ça peut être sur la géographie. Et je suis passé en voyage à vélo sur place en 2013. Et là, j'ai halluciné de ce lieu-là, comme beaucoup, beaucoup de gens qui sont passés là-bas. J'ai été hyper marqué. J'avais pas mal voyagé dans plein d'autres pays. Et c'est une des premières fois que j'étais vraiment en mode comme dépaysé, mais en France, sur les modes de discussion, les sujets de discussion, les façons d'interagir entre les gens. C'est même si c'est la même langue, c'était un truc de... Il y a un rapport aux autres qui est différent. Et j'ai retrouvé surtout plein de choses qui me questionnaient par ailleurs en acte, en fait. Et du coup, j'étais en mode wow. Et donc, au début, j'ai fait un mémoire un peu comme un prétexte pour y retourner, une façon de s'y intéresser, tout ça. Et donc, pendant 2 ans, j'ai, en parallèle de la fin de mes études, j'ai écrit ce bouquin, enfin ce mémoire, en faisant des allers-retours là-bas comme je pouvais, quoi. Sachant que moi, j'étais à Strasbourg, donc pas tout à fait au même endroit, vu que. Si je redis aussi des petites choses simples, souvent quand il y a des discussions, tout n'est pas forcément évident. Du coup, la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, le projet d'aéroport, il est à 25 km au nord de Nantes et ça représente 1600 hectares. Alors, je sais pas si c'est facile à se représenter, mais une commune, c'est un peu la superficie d'une commune moyenne. Mais c'est pas du tout un village, c'est vraiment des petits hameaux, voire des fermes isolées. Un peu, il y avait une vingtaine de lieux entre hameaux et fermes isolées avant le projet d'aéroport. Et donc je me suis retrouvé à passer là-bas et à faire ce mémoire. J'ai travaillé en particulier sur la forme et la structure avec ma mère. Ça a une importance parce que après j'ai laissé ça un peu de côté après mes études, j'ai commencé à faire plein de trucs. Et j'y retournais régulièrement en me disant tiens, toute cette matière. Parce qu'au début je voulais travailler sur l'autoconstruction, mais finalement j'ai vraiment travaillé sur l'évolution de ce territoire, comment... En fait, la question principale que je me posais, c'est comment une lutte habitée, comme on l'a appelé, enfin, cette lutte qui est particulière parce que c'est des gens qui habitent sur place pour s'opposer, elle transforme le territoire. C'est vraiment ça, comment et puis les phases d'expulsion, d'attaque, aussi transforment un territoire, comment il évolue. C'est vraiment ça l'axe principal. Et donc, j'ai fait ça. Et après, toute cette matière et surtout le mémoire était déjà la même structure que le bouquin, à savoir prendre étape par étape, trouver les moments de rupture historique, comme ça vient de Foucault, pendant mes études j'ai lu ça, le truc de se dire qu'il y a dans le temps, ce qui fait des moments, c'est les ruptures en fait, c'est un passage d'un état à un autre, c'est le seul moment où on voit vraiment un passage, un point précis. Et donc là, en l'occurrence, c'est les ruptures dans ce territoire, c'est le moment où il y a cette campagne qui devient une campagne différente, parce que dans les années 70, il y a un aéroport qui est projeté à cet endroit. Alors d'un coup, ça le change. Après, il y a une lutte qui se met en place jusque dans les années 80-90, où là, avec le choc pétrolier, il est mis de côté. Du coup, on a une première phase. Et ce qu'on parle rarement aussi, c'est toute cette lutte qu'il y a eu dans ces années-là, et aussi après, jusque dans les années 2000. Dans les années 2000, le projet est repris. Et en fait, il y a toute une lutte hyper intéressante des paysans pendant cette période-là, où ils se battent pour que le territoire ne soit pas vidé, parce que c'est un peu la politique de « on va faire un aéroport un jour, du coup on laisse les choses croupir, mourir, on ne donne pas d'autorisation de construction, tout ça, et donc on laisse ça mourir, quoi. » Et c'est assez intéressant ce qui se passe dans ces années-là. Puis en 2000, le projet est repris, et la rupture suivante, c'est 2007, premières occupations, puisque en 2000, l'opposition reprend hyper forte, avec les associations citoyennes, paysannes et autres qui s'étaient créées à cette époque-là. Et en 2007, donc, c'est les premières occupations, le truc très particulier de citoyens et agriculteurs qui rencontrent des squatteurs de ville et leur disent en mode, ben, il y a plein de fermes vides et peut-être que si vous voulez venir squatter, voilà, ça crée un peu quelque chose de nouveau. Puis après, il y a 2012, les expulsions, qui durent un mois, les premières expulsions à la ZAD avec beaucoup de destruction, de fermes en dur, des choses comme ça. Et 5 mois d'occupation militaire, qui est quand même un fait un peu particulier, qui a quasiment jamais existé à un autre moment en France. Comme ça, des escouades complètes de CRS et de gendarmes qui tiennent un territoire, contrôle jour et nuit. Et donc voilà. Et après, c'est plus complexe. Là, on en a fait des phases plus complexes. Entre 2012, les expulsions, 2013, les occupations, et 2018. Pour nous, il y a une rupture au milieu, même si elle est moins franche, qui est qu'en 2015, les occupants historiques deviennent à leur tour squatteurs aussi. Au début, il y avait deux statuts différents, il y avait les squatteurs qui étaient arrivés et puis les autres. Donc voilà, et le bouquin, le mémoire se structurait là-dessus, et le truc un peu particulier, si vous voudrez regarder, c'est que j'aime bien faire, enfin, par le côté archi qui dessine les plans, je me disais que les cartes, c'est finalement pas si différent que des plans un peu, mais vu de plus loin. Et donc je dessinais beaucoup, c'était comme un bloc-notes pour moi. Dès qu'il y avait une manif, un truc, je le dessinais sur le plan de la période. Et j'ai essayé de faire comme ça des cartes qui essayent de montrer une période, non pas un moment T fini, mais une période avec tout ce qui a animé cette période dans ce moment-là. Et donc voilà, et je me disais que tout ça, enfin, et puis on me renvoyait aussi des potes de là-bas qui me disaient que ça serait même sympa de le faire connaître. Et donc au début, je pensais faire une autoproduction, mettre sur internet, où je savais pas trop. J'en ai quand même parlé autour de moi, en mode si des gens étaient intéressés pour m'aider à retravailler toute cette matière. Et donc on s'est relancé avec un pote qui lui non plus n'est pas très littéraire. On a refait appel à ma mère parce qu'elle est plus littéraire que nous. Du coup, on s'est réembringué dans là un travail à trois d'écriture très complexe. Parce que pas structuré avec « moi j'écris ça, toi t'écris ça et toi t'écris ça ». C'est un aller-retour permanent avec... Catherine qui était censée plutôt être sur la forme finale, mais bien sûr qu'on voulait qu'elle mette ses idées dans la structure, dans la forme, dans tout ça, mais du coup ça a été assez complexe. Et à la fin, il y a un copain avec qui je vis toujours à la ZAD qui s'est rajouté dans l'histoire après qu'on ait trouvé un éditeur, enfin des éditrices plus précisément, le passager clandestin. Et j'aime bien raconter ça parce qu'il y a quand même un truc un peu particulier entre écrire un mémoire, trouver cool d'écrire un truc sur une période que je pense importante, qu'il faut qu'on laisse des traces, une volonté d'être assez précis, pragmatique dans la façon de raconter ça. Moi j'ai lu, je vous conseille Constellation ou Contrée du collectif Mauvaise Troupe, qui sont des écrits qui viennent de là-bas et qui sont hyper riches, qui moi m'ont fait entre autres kiffer, qui parlent moins politique, qui parlent politique, mais en même temps aussi d'un truc du plaisir de lutter. Pas toujours juste le truc analytique de on lutte parce que c'est juste ou je sais pas quoi, mais on lutte parce qu'en fait juste c'est ça la vie, quoi. Et ça m'a vachement apporté, quoi. Mais c'est d'autres regards, et du coup, nous, on a fait celui-là. Et donc, on a envoyé le projet à des maisons d'édition, et moi, j'y connaissais rien, tout ça. Le copain avec qui je bossais, il connaissait un peu, il disait que c'était pas facile. On a direct eu deux maisons qui nous ont dit que c'était OK. J'ai trouvé ça facile. Et du coup, on a continué avec eux et elle, parce que c'était marrant. C'est aussi une équipe qui a changé entre temps. C'était des deux mecs et une fille, et à la fin, enfin, nous, on a travaillé qu'avec ces deux filles qui ont repris la maison. Et c'est vraiment, j'ai appris ça aussi après, c'est que c'est vraiment une maison en mode artisanal, comme ça se fait plus, quoi. Quand je raconte le processus d'écriture et de travail avec la maison d'édition, avec plein de gens, ils me disent, mais ça n'existe pas, des maisons d'édition qui font une première relecture, puis, enfin, ça existe encore, mais de moins en moins, puis une relecture à la fin, avec vraiment des échanges de formes, de tout ça, quoi. Et aussi, je trouve ça important de le dire, parce que, du coup, il y a le collectif des quatre qui ont écrit, mais en fait, en vrai, il y a les différentes relectures. Et c'est des relectures, pas que des coquilles à la fin, quoi. C'est des vraies relectures, des échanges, le graphisme, tout ça, quoi. Donc voilà comment on en est arrivé à ça. Après, sur ce qui est de... Je sais jamais trop quoi raconter de où on en est ou de quoi sur la ZAD, parce que c'est dur de se rendre compte si vous voyez, ne serait-ce que dire que... sur la partie vraiment lutte contre l'aéroport avec le début des occupations, moi je me suis vraiment intéressé sur l'occupation, c'est ça qui m'a passionné. Du coup j'ai tendance à vouloir raconter cette partie-là, même si c'est une toute petite chose par rapport à, je veux dire vraiment ceux qui ont habité, comment ils ont interagi avec les autres, mais c'est vraiment ça que moi je vis et que je connais là-bas et que je raconte. Mais il y a aussi plein de choses à raconter sur les agriculteurs qui luttent, sur plein d'autres choses, même si on en parle aussi, mais... En gros, en 2007, il y a une dizaine de personnes qui sont installées dans une maison. Et assez rapidement, entre 2007, enfin rapidement, c'est relatif, entre 2007 et 2012, il y a eu des camps en fait qui ont eu lieu, des camps autogérés qui ont eu lieu sur la zone et qui ont fait venir du monde, entre autres des camps Nogé qui venaient du fait qu'il y a eu les oppositions au G7, au G8, à toutes ces choses. Où à un moment, les gens qui organisaient ça ont eu l'impression qu'il y avait une limite à ça, c'est qu'en fait c'était attendu, à chaque fois ils arrivaient, ça essayait de bloquer, et puis c'était compliqué. Cette année était un très bon exemple, on y était, c'était vraiment pas agréable. Et donc ils ont voulu faire autre chose, et donc ils sont allés sur la ZAD, enfin qui s'appelait pas encore comme ça, pour inviter à se dire, bah, plutôt que de mettre de l'énergie dans ce truc-là, où c'est un peu compliqué, on va mettre de l'énergie à se retrouver, à s'organiser ensemble, à faire exister autre chose. Et ça, à chaque fois, ça a amené du monde. Après, il y a eu Camp Action Climat, dont le premier avait été en Angleterre contre l'aéroport Hirsfield à Londres, et qui pareil a ramené pas mal de monde dans ces moments-là. Et donc entre 2007 et 2012, c'est passé de un lieu squatté avec une petite dizaine de personnes à une trentaine de lieux squattés ou construits en mode cabane et tout, où donc il y avait environ 80 personnes à la veille des expulsions de 2012. Et donc en 2012, pendant les expulsions, là il y a eu un moment de solidarité qui était assez inattendu pour pas mal de gens qui vivaient sur place. Moi je vis avec des gens qui vivaient donc sur zone avant 2012. Non, pas tant que ça encore qui vivent sur place, peut-être une 40-50. Et ouais, pour tous les gens à ce moment-là, moi je suis arrivé après en 2013. Après la fin de l'occupation militaire, il y a eu ce truc de solidarité qui était incroyable. Entre autres, enfin, des points culminants et d'actions, moi, que je trouve incroyables et qui donnent envie de réfléchir. On parlait d'actions un peu créatrices et créatives qu'il peut y avoir là dans les luttes. Le truc incroyable qu'ils avaient fait, c'est qu'ils avaient dit en mode, de toute façon, face aux forces de l'ordre, on ne peut pas résister. Vous voyez, c'est pas militairement qu'on gagne. Mais l'important, c'était de, même si il se faisait virer, c'était de revenir reconstruire. Et donc, bien avant qu'il y ait ce moment d'expulsion, ils avaient diffusé dans tout leur réseau une affiche sans date, un appel à manifestation sans date, en disant, pile poil un mois après les expulsions, on revient et on reconstruit. Et ça a hyper bien marché, parce que dans tous les réseaux de France, les gens sont mobilisés, sont préparés. Dès qu'ils ont su qu'il y avait expulsion, ils ont su qu'ils avaient un mois pour se préparer. Et au bout d'un mois, il y a eu une manif de 40 000 personnes qui n'a jamais réussi à d'ailleurs partir de son point de départ tellement il y avait trop de monde. Elle est partie, mais je veux dire, la fin était encore au départ que c'était déjà en train de construire depuis des heures dans la forêt, quoi. Et il y a un village complet qui a été construit dans la forêt Et ça a fait la rupture, en fait, c'est aussi ça qui a fait la rupture entre la phase d'expulsion, où on le sait maintenant plus sur les dernières expulsions qu'il y a eu en 2018. Moi, j'ai appris beaucoup de choses aussi sur les expulsions, tout ça. Enfin, c'est très flou quand on le vit pas, puis quand on le vit, puis quand on l'analyse, quand on a des retours de la préfecture, enfin, par des biais différents, des journalistes ou quoi. On capte beaucoup de choses, et en fait, sur les moments, dans ces moments-là, on se rend pas compte de ce qui est décisif. Et en fait, après coup, on se rend compte que des actions comme ça, c'est décisif. C'est comme ça qu'on peut basculer d'un truc où, enfin, par exemple, je fais des divagations. Hein, mais en 2018, on a appris, là, il n'y a pas si longtemps, maintenant on est clair là-dessus, qu'en gros, la préfecture, la préfète, elle voulait une solution soft. Elle voulait pas trop, elle voulait un peu négocier, machin. Et à côté, il y avait le général, qui s'appelle le général Lizuret, qui lui était solution, on pète tout, on va tout défoncer, on va tout péter, on va virer tout le monde, lui il voulait vraiment ça. Et en fait, on se rend pas compte à quel point qui a la main. En fait, moi avant, mon imaginaire de la République, de tout ça, ces institutions, c'était un truc hyper carré. Je me disais, ils s'organisent, ils savent ce qu'ils font. Mais en fait, c'est autant des luttes internes entre eux que nous, on peut avoir de la complexité dans nos façons de nous organiser à des moments, quoi. Et donc en fait, il y a des moments où on voit aussi des basculements comme ça, et entre autres, d'une manif comme ça de 40 000 personnes, ça fait changer, ça peut faire vraiment changer un truc où il se passe trop de choses, où du coup il y a trop de risques pour le maintien de l'ordre, et donc ça change peut-être une phase, quoi. Et en tout cas là en 2012, c'est comme ça que ça vraiment que ça a joué aussi un moment de facteur où du coup c'est passé à l'occupation. L'occupation, c'est un truc un peu fou. Moi, j'aurais bien aimé vivre. Je pense que c'est en même temps très dur et très rigolo. Parce qu'il y a un truc un peu fou de 4 pauvres escouades de CRS qui tiennent un rond-point, un endroit au milieu d'un bocage où tu as 500 personnes minimum en permanence qui vivent là et qui veulent libérer ce territoire. Du coup, c'était un peu genre quand tu sais pas quoi faire l'après-midi, tu vas faire chier les flics. Du coup, je pense que ça a été aussi un moment d'expérimentation un peu marrant. Il y a pas mal de récits un peu drôles, comme des gens qui avaient accroché un haut-parleur dans l'arbre juste à côté d'eux, et qui toute la journée criaient un truc du genre « Vous êtes inutile, vous ne servez à rien, barrez-vous », et un cri je ne sais lequel, et ça qui tourne en boucle toute la journée, qui pour leur rappeler vraiment, et je pense qu'eux en avaient conscience, enfin, voyez bien le truc de « Ils sont à un carrefour, t'arrives, ils disent tu passes pas, eh bien, vous savez, tu contournes par le pré, et puis tu fais l'autre côté, et puis tu les hues au passage, et du coup, il y avait un truc un peu, je pense, psychologique, un peu rigolo. Ou des trucs un peu plus spectaculaires et marrants de marche au flambeau, justement. Il y a une nuit où les gens sont arrivés des quatre côtés du carrefour par les champs, et en chantant un truc un peu mystique, un peu marrant pour leur faire peur. Et aussi un autre truc qui m'a fait beaucoup rire, c'est un carrefour avec quatre voies. Et du coup, il y a des gens qui ont attaqué par les quatre voies en pensant aux quatre sens. Il fallait attaquer par les sens, la vue, l'odorat, l'ouïe, et j'ai oublié lequel, quoi. Et le toucher. Merci. Le toucher était très rigolo. Je crois que c'était des trucs, ils avaient des énormes boules en papier comme ça, et ils arrivaient à les rouler vers eux. Et du coup, à créer comme ça des trucs, et je pense que c'était une bonne... moment d'expérimentation, ça a dû être très très drôle, même s'il y a eu des trucs comme d'habitude moins drôles, forcément, dont le soir au flambeau, il y en a un qui s'est... quelqu'un qui a eu le pied à moitié arraché à cause d'une grenade, du coup c'est toujours... c'est pas un jeu, quoi, malgré que des fois il faille trouver de la légèreté dans tout ça, quoi. Voilà, sur tout ça, et sur un peu le nombre qu'on est, sur les activités, après il y a eu... une phase très particulière entre 2013 et 2012-2013 et 2018, là, parce que vraiment il y a eu un espèce d'ouverture d'un espace de possible incroyable, quoi. C'est pour ça aussi que moi, quand je suis passé, mais je pense que ça le faisait déjà avant 2012, mais moi ce que j'ai connu, et tout plein de gens à ce moment là il y avait un truc un peu fou, parce que autant avant 2012 il y avait un peu un truc de clandestinité, d'occuper un territoire illégalement, mais sans truc victorieux, quoi, en mode on se fait discret, enfin pas on se fait trop discret, mais où ils essayaient de bloquer des choses comme ils pouvaient, mais une espèce de truc que moi je trouve incroyable et que je vois chez les copains qui sont là depuis là-bas et qui m'a toujours impressionné, c'est comment ils peuvent à tel point faire le truc. Enfin, c'est la maxime, ils ne savaient pas que c'était impossible, donc ils l'ont fait. Pour moi, je trouve que c'est le truc hyper, vraiment que j'ai ressenti, quoi. C'est, donc, qu'ils vont squatter à 10 une cabane contre un projet d'aéroport tenu par Vinci et l'État. C'est une espèce de folie rebelle qui est trop trop belle, quoi. Et du coup, je pense que l'ambiance était un peu différente à cette époque, elle devait être assez belle. Mais 2013-2018, c'est vraiment le truc de, on a tenu tête à l'État et on affirme un territoire qui tient tête effrontément à l'État. Et donc il y a un truc un peu fou de cette force-là et de tout ce qui est possible. Mais c'est aussi la complexité de... Il y a plein de gens qui ont débarqué pendant les expulsions de plein de types différents, quoi. Et je pense que ça a rendu les choses plus compliquées aussi, parce que même si ça a été déjà avant, quand... C'est marrant, moi, on a toujours... Enfin, je pouvais un peu idéaliser le avant 2012, quand je discutais avec des gens, à imaginer des gens, vous voyez, qui viennent de la décroissance, des milieux squats, tout ça, et qui se retrouvent à pas très nombreux, qui s'organisent hyper bien entre eux. En fait, quand on parle avec les gens, tu te rends compte que là aussi, c'était hyper compliqué, plein de choses pas faciles. Mais ça a pris encore une autre forme encore plus dure, avec des problématiques de drogue, des gens qui venaient de avec moins une volonté très claire de faire révolution, mais aussi un espèce de lieu-refuge, du coup, avec ce qui est très beau, de pouvoir faire refuge, mais aussi très dur, parce que c'est dans les rapports humains, dans ce qu'il faut gérer, quand déjà tu tentes l'autonomie, et en plus, y a tout ça, ça peut être assez dur, quoi. Et donc cette période est pas si simple. Et là, il y a eu jusqu'à 300-400 personnes qui vivaient sur zone quasiment en permanence, avec une quarantaine, cinquantaine de lieux. Alors c'est dur de faire un tour un peu de tout ce qui se fait sur place, mais il y a plein de formes d'agriculture, de tests d'agriculture, mais à des échelles rarement tentées sur des squats. Des céréales sur plusieurs dizaines d'hectares, y a un moulin, des ateliers méca, y a un pote qui fait une brasserie, y a une bibliothèque, y a une gestion forestière aussi qui se met en place activement depuis certaines nombreuses années. Y a des copains qui font du cuir, de la tannerie naturelle, ce qui, j'ai une longue discussion l'autre jour avec un d'eux, qui n'existe plus du tout en France, ça n'existe nulle part, ce genre de tentative. Voilà. Et aussi, ça me fait penser sur un truc qu'on dit tout le temps, mais qui est très vrai sur ce qui a fait un peu la particularité et la force de ce moment-là, même si je pense que ça a existé à d'autres moments, enfin, je pense entre autres à Plogoff, à d'autres luttes que moi je ne connais pas hyper bien, mais dont je me suis un peu intéressé, mais qui a été très fort à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, c'est la rencontre entre des milieux très différents. Vous voyez, il y avait d'un côté une association paysanne, de l'autre une association citoyenniste, quand on dit citoyenniste, je veux dire c'est tous des citoyens qui font beaucoup de recours en justice, entre autres, et un peu plus des anards squatteurs qui débarquent, et donc ils n'étaient vraiment pas du tout d'accord sur les modes d'action. Mais même avant qu'il y ait les squatteurs qui débarquent, il y avait des habitants, les habitants qui résistent, qui vivaient sur place. Et entre autres, par exemple, sur un exemple tout bête, mais qui sont allés entarter Jean-Marc Ayrault, qui était quand même un des promoteurs de l'aéroport en tant qu'homme politique. Et ça, par exemple, au sein de la lutte, ça faisait un truc où les associations citoyennes étaient en mode « Ah, mais ça nous donne une mauvaise image ». C'était vraiment dans une ligne très, très carrée, on fait des attaques judiciaires, machin. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est qu'au fur et à mesure qu'ils ont fait ça et que ça marchait pas, ou qu'ils voyaient comment l'État aussi se joue des lois quand ça l'arrange, et ben ça a aussi fait un truc de... C'est vrai que ma morale fait que quand je vois les squatteurs là qui attaquent au cocktail Molotov, je me sens pas à l'aise, c'est pas mon mode d'action, mais je commence à me demander s'il n'y a pas une certaine justesse à faire ça, quoi. Et pareil, les agriculteurs qui se retrouvent en 2013, c'est un peu la fin des expulsions, mais il y a des gens qui partent de leur ferme à ce moment-là, qui se mettent à squatter collectivement une ferme, c'est aussi un déplacement de la part d'agriculteurs à s'inspirer de ce que font les squatteurs. Pareil, les squatteurs qui sont plutôt des gens très urbains, qui se mettent à faire de l'agriculture, mais qui des fois un peu ridicules dans leurs tentatives, et du coup aussi apprennent une certaine tente, ou sont aussi... ça les change, quoi. Et ça, c'est un peu le... C'est vraiment le truc hyper fort qui s'est passé. J'ai envie de parler de 2010, et de, donc vous avez dû suivre 2018, l'abandon de l'aéroport, la fête qui dure qu'un soir, parce que il y avait déjà des tensions énormes, on pourrait y revenir, je ne m'apesantis pas trop sur tout ce qui est compliqué, toutes les tensions, tout ce qui est dur, parce que vraiment, enfin, il y a un truc important à ne pas trop idéaliser, ce lieu-là, quoi, qui a une force symbolique énorme et qui est géniale, et en même temps, il faut savoir tout ce qui a dysfonctionné ou dysfonctionne, ou marche mal, ou quoi. Mais c'est assez dur 2018 d'en parler, enfin moi je sais que pendant un an ou deux on est plein à avoir été ça a été trop très dur parce que il y avait des dissensions entre nous et par dessus ça on sait pas dans quel ordre en tout cas, mais la préfecture a été d'une finesse incroyable à savoir mettre le doigt là où ça fait mal et a su créer une dissension très forte justement où toutes ces composantes qui on parle de composantes je précise on dit souvent les composantes, c'est les habitants squatteurs, les agriculteurs, les historiques habitants, on parle de composantes, quoi. Du coup, de toutes les composantes qui avaient réussi à se fédérer, à travailler ensemble, à des trucs, à avoir des moments d'assemblée générale, où même si on n'arrive jamais à une idée arrêtée, il y a quand même un truc où chacun un peu réfléchit, donne son idée, on se jauge, on ne va jamais dire oui ou non, on fait cette action, juste chacun sait que son action, s'il l'a fait, les autres lui ont dit où ça les gênait, où ça les gênait pas. Et chacun essaye de prendre en compte comme ça les autres, quoi, en fait. Il y a toujours eu cette intelligence qui est assez étonnante, qui est pas imagée comme on peut imaginer, où t'arrives et puis à la fin, tu sors, il y a une décision collective qui est tamponnée, quoi. Tu discutes et puis, en fait, s'il y en a, ils évoquent un peu, pas hyper clairement, qu'ils vont faire une action un peu plus virulente, on va dire. Les autres le comprennent et leur disent là où serait bien qu'ils aillent pas trop loin ou machin, mais voilà, et c'est ou même peuvent dire que s'ils trouvent pas ça cool comme action, mais qu'ils vont pas s'y opposer. Et donc voilà, et c'est un peu comme ça que ça se construit, quoi. Et en 2018, c'est très très dur parce que il y a toujours eu un lieu qui a concentré tous les imaginaires et toutes les tensions, c'est la route des chicanes, qui est une route qui avant, enfin la géographie de la ZAD a tellement changé avant. Moi, je vivais au Fosse Noire, qui est plein centre de la forme géographique de la ZAD. Du coup, avant, c'était le centre et il y avait l'est de l'autre côté de la route des chicanes. Et à l'est, c'était plus la débrouille, des petites cabanes, pas trop des philosophies assez antispécistes, très proches de la nature. Et en fait, en 2018, tout ça a été détruit. Et du coup, toute la géographie de la ZAD s'est complètement décalée à l'ouest. Et nous, on se retrouve, alors qu'on était au centre, plutôt à l'est maintenant. Mais c'est très bizarre comme les trois phases avant 2012, entre 2012 et 2018, et après 2018, le centre névralgique de la ZAD n'a fait que se déplacer vers l'ouest. Avant 2012, il était encore plus à l'est que les Fosses Noires, quoi. Il était de l'autre côté de la route des chicanes. Puis après les expulsions, il s'est déplacé de l'autre côté. Et puis maintenant, toutes les activités sont plus vers Bellevue, qui est encore plus à l'ouest de la zone, quoi. Et cette route, elle a amené beaucoup de conflits parce que pour différentes raisons, du coup elle était toute barricadée et déjà pour les agriculteurs même de la lutte, il y avait un truc problématique de comment accéder aux champs, hyper dur, et malgré qu'il y ait eu des discussions, il y avait un peu toujours le truc de d'un côté gens qui s'organisent, agriculteurs qu'on peut identifier, on sait qui c'est, ils vont revenir machin, et de l'autre des gens qui sont hyper changeants. Il y a des gens qui sont de passage, machin et tout. Et du coup, tu as des gens qui prennent des engagements sur oui, on va laisser un passage de 3 mètres sur 10 mètres, mais tu repasses deux semaines après, tout est barricadé, et puis c'est plus les mêmes. Et en même temps, c'est la beauté à certains moments de ce qui fait que c'est imprenable. Enfin, c'est des stratégies, c'est aussi ça qui fait comme dans des émeutes ou quoi. Enfin, vous voyez, il n'y a pas de tête, il n'y a pas de. C'est imprenable aussi parce que c'est ça, quoi. Mais quand il faut construire avec, c'est un peu plus compliqué. Enfin, bon, bref, il y a toutes ces tensions qu'il y a eu, qui étaient déjà compliquées. Et en 2018, dans le discours du Premier ministre, il y avait ce truc de devoir lâcher la route. Et on sait qu'en sous-main, il avait contacté plus ou moins directement les agriculteurs, en faisant un peu un truc de il faut la lâcher, quoi, ça va bien se passer. Et donc, dans une assemblée du mouvement qui était même pas le lendemain ou le surlendemain de l'abandon, et cette question est posée. Tout de suite, ça part en vrille entre ceux qui sont complètement opposés et les agriculteurs qui veulent avoir une réflexion, mais qui, eux, plutôt, ont déjà pris la décision de dire « il faut vider cette route nous-mêmes plutôt que ce soit les flics qui le fassent », quoi. Et du coup, c'est un peu compliqué parce que, enfin, vous voyez, ça fait un peu un truc de rupture et à partir de là, c'est l'éclatement où faut choisir son corps, quoi, en gros. Et ça a, pas bon, ça, ça a été un des trucs un peu durs et du coup, le mouvement a choisi de nettoyer cette route lui-même. Mais moi, je fais partie de ceux qui pensent que j'étais pas pile poil à ce moment-là, je suis arrivé juste le lendemain quand les trucs commençaient et j'ai essayé de donner le coup de main. Parce que je suis arrivé, c'était plutôt ça la tendance de tous les gens que je croise. Du coup, plutôt, je suis allé dans ce sens. Mais c'est sûr qu'avec du recul, peut-être qu'il n'y avait pas le choix. Mais ça donne quand même l'impression que c'était vraiment... C'est vraiment triste qu'on ait eu à faire cette décision, même si c'était très compliqué, quoi. Et en tout cas, ça a été l'éclatement entre des choses qui tenaient par un fil, entre déjà les tendances des habitants, entre ceux qui avaient... C'était beaucoup rapproché de questions agricoles, d'organisations qui, très caricaturalement, peuvent se sentir plus tirés vers un certain communisme et ceux... qui sont plus vers un certain anarchisme plus radical, qui sont jusqu'au boutisme, enfin, c'est anarchisme dans ce sens-là, mais en tout cas, ça faisait des tendances un peu différentes dans les gens, ceux qui sont plus à vouloir se sentir très proche de la nature, comme sur les luttes antispécistes, par exemple, qui ont aussi beaucoup déchiré dans un territoire où il y a beaucoup d'agriculteurs, certains se disent il faut se battre d'autant plus à la ZAD pour pouvoir créer un autre monde possible avec de l'antispécisme, et d'autres qui disent mais... C'est pas le lieu en fait, on vient aider à la base des agriculteurs qui nous ont appelés à venir les aider. On peut pas leur exiger d'arrêter de faire de l'élevage, alors même qu'en plus, en tant que même des naturalistes, pour eux le territoire est fait d'une certaine façon où ça marche bien avec sa femme. Toute cette complexité-là, en tout cas, elle tenait par un fil et avec les expulsions de 2018, ça a fait l'éclatement de tout ça, quoi. Et c'est là où ça a été très dur et où clairement il y a une grande partie des milieux militants... qui ont soutenu la ZAD très longtemps, qui ont considéré que c'était une trahison quasiment, je pense dans les mots de beaucoup, c'était une trahison, parce que je ne sais pas à quel point vous avez suivi, mais en gros, la préfecture, il y a eu ce truc de la route, puis plus tard, il y a eu une grosse phase d'expulsion. Et à la fin de cette phase d'expulsion, en gros, la préfète nous a dit, soit ceux qui font de l'agriculture signent des fiches individuelles d'agriculture, soit on continue les expulsions. Et du coup, bah là, il y a ceux qui pensaient qu'il ne faut pas qu'on baisse les chines, quoi. C'est mort, en fait. C'est un piège et il ne faut pas. Et ceux qui disaient, en fait, d'être bien gentil, mais pourquoi tout lâcher et se faire détruire? Alors que même si le geste n'est pas génial, déjà, tous nos soutiens citoyennistes, agriculteurs, tout ça, nous disaient, mais vous faites quoi, là? En fait, vous êtes défendu contre un projet d'aéroport. On a réussi ensemble à le détruire. Et là, aujourd'hui, on a quand même la possibilité, même si elle est dure, d'avoir des terres, quoi. Entre autres, les gens des mouvements sans terre, on a beaucoup de liens avec aussi beaucoup de luttes ailleurs. Tous les sans terres qui connaissent un peu le rapport à la terre qu'il y a dans les univers capitalistes disent, mais en fait, vous êtes quand même face à un moment où vous allez pouvoir peut-être récupérer de la terre d'une certaine façon, quoi. Et ça, c'est important, quoi. Du coup, ça vaut le coup de faire ce compromis-là, quoi. Mais en tout cas, ça a beaucoup, beaucoup séparé les gens dans ce moment-là, quoi. Et du coup, bah, c'est ce qui s'est passé, où beaucoup de gens ont signé, enfin beaucoup de gens. Il y a 10-15 personnes qui ont signé ces baux agricoles pour se déclarer. Une grande partie des gens qui sont partis dégoûtés de la ZAD en disant que c'est nul, trop de la merde. Et qu'on... voilà. Et nous, du coup, et donc ceux qui restent maintenant, on est un peu moins, on est 100-150. Et je sais pas trop, il y a toujours pas mal d'activités qui existent. Beaucoup moins. Ce qui est un peu dur, c'est qu'il y a moins de choses. Il y a beaucoup de choses très productives qui sont ancrées très 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 fort et du coup qui marchent hyper bien. Matériellement parlant, on est une base arrière qui est hyper agréable, quoi. Après, sur plein de choses que moi j'adorais, comme je retrouve dans des milieux plus en ville où il y a d'autres énergies, beaucoup de monde, en fait, c'est plus facile d'avoir plein de choses qui vivotent autrement quand on est plein. Là, on a un peu l'impression d'être tous en semi-burnout, à gérer tout ce qui est administratif, ceux qui font de l'agriculture, des machins, la construction, tout ça. Du coup, tout le monde est en mode... T'envoies, et t'es pas là à papillonner comme moi pendant des années entre 2013 et 2018. C'était hyper agréable de jongler entre... Puis surtout quand tu faisais un appel à un chantier collectif, t'avais toujours 20 personnes qui débarquaient de nulle part. Je savais jamais, mais il y avait toujours plein de monde en fait qui passait sur zone. Aujourd'hui c'est quand même moins le cas, même si c'est encore le cas. Et tout, voilà. Après, ce qui est trop bien, c'est que ce bazar, enfin, ça fait aussi une base arrière avec une volonté de pouvoir aider politiquement plein de choses. Entre autres, par exemple, à Nantes, récemment, il y a un gymnase où il y avait des exilés qui étaient et qui a été expulsé par la police. Et donc, une partie des personnes qui étaient dedans, qui étaient en situation irrégulière, ne pouvaient pas re-rentrer vu qu'ils ont fait un tri au passage. C'était une expulsion aussi pour faire un peu le ménage dans qui était accueilli, quoi. Et donc, grâce à des contacts qu'on a beaucoup avec Nantes, on accueille une trentaine, une quarantaine de personnes qui sont là depuis déjà 2 mois, je pense, maintenant. Et ça, c'est un truc qui était trop bien, qui est trop bien. Il y a aussi eu des grosses rencontres No Border l'été dernier. Du coup, c'est aussi un truc qu'on continue, c'est qu'on a des grandes salles qui sont exprès pour les rencontres liées à des luttes ou pour organiser des événements. On a des capacités d'infrastructure avec des barnums, plein de trucs qui font qu'aussi on veut pouvoir être en capacité de faciliter ce genre de moments de rencontres collectives. Du coup, ça, c'était trop bien aussi. Je pense à un autre truc, il y a toujours la cantine, la Cagette des Terres, qui est un réseau de ravitaillement des luttes nantaises qui existe depuis déjà 1 an ou 2. Donc, on a une espèce de petit truc qu'on a construit sur un châssis de caravane. Et donc on essaie de mettre en lien des agriculteurs qui nous filent des produits, des gens qui veulent faire de la bouffe, et on va en manif avec notre petite carriole, qui n'est pas si petite que ça, tirée derrière une voiture avec des grosses enceintes, on envoie du son, on sert des soupes au milieu de l'émeute, ça c'est rigolo. Au début on était un peu timide, mais là les dernières c'était un peu fou, quoi. T'avais l'émeute et puis on appelle la sbelinette notre truc là. C'était la sbelinette avec son grand toit rouge qui servait de la soupe au canard qu'on avait tué à l'auberge des Cuplans. Il y a une auberge aussi, l'auberge des Cuplans. Et du coup, c'était un peu fou. Mais du coup, ça devient un peu compliqué parce que... Ce qui est un peu rigolo, c'est que... Là, c'est un peu compliqué parce que, vous voyez, les flics, ils aiment pas trop voir une infrastructure bien organisée. Au début, ça va quand elle est un peu avec les syndicats, que ça tourne autour. Là, c'est hyper identifié quand on est toujours au milieu. Tout le monde qui est masqué, qui tombe là-dedans, quoi. Et du coup, ça fait 2 fois que les copains ils sont contrôlés quand ils l'amènent, qu'ils la ramènent. Donc on va voir la suite des événements, quoi. Mais il y a quand même un petit truc qui est un peu marrant, le fait d'être pote avec plein de syndicats, de venir de la ZAD, de savoir où sont les limites, aussi, vu qu'on... C'est un truc qui est à la ZAD qui est hyper fort aussi, mais comme dans tout, je pense, le plein de luttes en ville ou... Mais à force d'être en rapport avec la justice, les CRS et tout, t'apprends où est la limite, quoi. Et du coup, t'apprends à pousser le curseur le plus loin possible sans être trop emmerdé, quoi. Voilà, sur les grandes lignes. J'ai l'impression que ça en fait déjà pas mal. Ouais. Il y a tout plein de trucs à toujours en dire.
Je suis très, très curieux par rapport à la 10-15aine de baux agricoles. Qu'est-ce que ça a donné finalement, des petites propriétés, sur quelle surface,
Ouais, c'est bien ça, en plus comme ça, sur un des points, il y a 2 grandes luttes en cours qui sont devenues les 2 gros, sur les luttes vraiment liées à la ZAD, pas les luttes qu'on a autour, c'est la lutte sur le foncier et la lutte sur l'habitat. C'est vraiment les 2 trucs qui nous, depuis 1 an là où on est hyper focus. Du coup, pour dire 2 mots sur les baux agricoles, ce qui est un peu intéressant, c'est que ils nous ont demandé un truc complètement fou qui, nulle part ailleurs, on peut imposer ça aux gens, dire en fait, vous ferez des trucs individuels, t'es là, mais en fait, on a le droit de dégager, on a le droit de faire plein de trucs, des associations agricoles, enfin, tout est possible. Sauf qu'il fallait qu'ils nous cassent l'élan directement, en fait. Il y avait un truc politique de, faut surtout pas nous faciliter les choses. Alors que nous, on travaillait avec du monde et avec tous nos soutiens derrière, enfin, tous nos soutiens, tous les gens qui soutiennent la ZAD. On avait fait un texte en 6 points où on demandait qu'il y ait une entité issue du mouvement qui gère les terres. Du coup, nous, on était en mode, il faut faire un peu comme au Larzac, prendre son temps, geler les terres, apaiser un peu tout ça, et nous, on veut prendre notre part là-dedans, et ça va bien se passer. On n'est pas contre le fait qu'il y ait des noms qui apparaissent et tout. Parce qu'il y avait aussi un gros enjeu pour eux, c'était de sortir de la clandestinité des noms, quoi. Il leur faut des noms pour pouvoir avoir des responsables. Et ça, ils nous ont dit non direct, et même ça a été dit dans des réunions, parce qu'il y a commencé à avoir, avec cette négociation, des réunions entre... nous, on avait une délégation avec des habitants, des paysans, des gens de l'association citoyenne, et ils nous ont dit texto, on ne veut pas d'un nouveau Larzac. Du coup, ils ont tout de suite balayé la question collective, ils nous ont écrasé directement en disant « on ne vous reconnaîtra pas ». Et donc, s'est mis en place le BADA, le Bureau d'Autodéfense Administrative, le BADA, et où c'était en fait le truc de checker qui a la capacité agricole, même si en fait on s'est rendu compte après que t'es pas obligé d'avoir la capacité agricole, mais qui peut se déclarer comme agriculteur, pour différentes raisons, selon ce qu'il déclare. Si tu as une exploitation bovine, une exploitation de chèvre ou quoi, tu as le droit en fait à jusqu'à un certain nombre d'écarts, tu es cotisant solidaire. Du coup, ça, c'est un peu comme auto-entrepreneur, mais de l'agriculture, quoi. Et du coup, en fait, on checkait ça pour ensuite réussir à couvrir toutes les terres où il y avait des exploitations, ou les terres qu'on voulait garder, ou des cabanes. Mais de toute façon, ça pouvait être complètement éclaté. Tu as quelqu'un qui pouvait avoir 20 hectares là, et puis 10 là, et puis 1 là. On a fait une espèce de puzzle hyper complexe. Il y a eu une espèce de bataille incroyable depuis 2 ans où on les dépassait complètement en termes d'information. Et eux, ils ont dû embaucher, je crois, 3 personnes rien que pour la ZAD, rien que pour gérer cette question de l'imbroglio foncier de la ZAD. Et en fait, on avait toujours un coup d'avance sur ces trucs-là. Et on a dit, en fait, on va rendre ces fiches, mais on va pas le faire individuellement. On va travailler ça ensemble et on a amené un paquet de fiches. Et puis même dans le parcours agricole, pour blinder le truc, il y avait des agriculteurs qui venaient en tant que parrains. On allait faire les rendez-vous collectivement, toujours avec cette belinette, et faire de la soupe en bas de la chambre d'agriculture. Enfin, il y avait aussi plein d'actions qui ont eu lieu un peu, qui étaient marrantes, quoi. Et donc, dans les grandes lignes, c'est passé, tout ça. Le fait d'avoir... Mais d'abord, c'était des COP, des conventions d'occupation précaire. Comme quand tu fais un squat, t'as d'abord une COP, quoi, en général. Enfin, ça dépend. Et après, il y a eu un truc un peu complexe de... Il y a eu des endroits où ça faisait conflit. Parce qu'en fait, il y a... Sur zone, il faut voir le foncier. C'est en gros, il y a... Enfin, avant même, je veux dire, historiquement, là, depuis 2012 à 2013, il y a en gros les squatteurs qui ont occupé de plus en plus de terres, quoi. 30, 40, 100, 200, jusqu'à un peu moins de 300 hectares avant 2018, quoi, en gros, jusqu'en 2018. À côté, il y a les agriculteurs historiques qui sont contre le projet et qui sont toujours battus et qui ont refusé les sous pour avoir pour refiler les terres pour l'aéroport. Ils ont environ 500 hectares, 400, un truc comme ça. Et il y a ceux qu'on appelle les cumulards, qui sont en fait les agriculteurs qui, eux, ont d'entrée de jeu accepté d'avoir de l'argent pour que les terres servent à autre chose. Mais finalement, vu qu'il n'y a pas eu de projet d'aéroport tout de suite, Vinci leur disait bah, vous pouvez exploiter les terres parce que ça fait l'entretien des terres. Et du coup, ils exploitaient gratuitement des terres pour lesquelles ils avaient touché des sous. Et en plus de ça, du coup, ça avait déjà un peu un cumul usage plus argent touché. Et en plus de ça, ils ont continué à toucher les prime pack sur ces terres-là, quoi. C'est pour ça qu'on les appelle les cumulards. Et quand l'État est arrivé et a abandonné l'aéroport, eux, ils ont essayé de se mettre en arbitre. Et eux, ils ne voulaient pas faire la différence. Ils disaient les historiques. Nous, on faisait exprès de dire les historiques, les cumulards et nous. Et en fait, l'État a parlé des historiques de façon générale, sans faire la différence entre ceux qui avaient vendu leurs terres et ceux pas. Et ceux qui aussi ont une agriculture intensive ou pas, parce que dès l'abandon de l'aéroport, dès le lendemain, il y avait du glyphosate pendu, des machins dégueux et tout, quoi. Il y a une agriculture complètement conventionnelle sur zone, encore aujourd'hui. C'est un des combats à mener, quoi. Et c'est fou, comme c'est plus dur de se battre localement pour prendre des terres, pour ce micmac local, que d'une certaine façon se battre contre un aéroport. Enfin, c'est pas si vrai, mais c'est assez rigolo de voir qu'on pourrait imaginer, ah bah la ZAD, soit les gens ils ont l'impression qu'on n'existe plus. Enfin, ça arrive souvent malheureusement de croiser des gens et le discours médiatique a tellement bien marché qu'il y a plein de gens, moi que je croise, ah bon, mais il y a encore des gens à la ZAD, wow, ça fait mal au cœur. Ou à l'inverse, des gens qui peuvent imaginer que, enfin tu sais, tu peux avoir un imaginaire contraire de dire, ah bah s'ils ont gagné, il ne doit pas y avoir un gros tracteur et un mec qui épand la merde dans sa chambre. Bah, si, c'est cette complexité-là, quoi. Et donc l'État s'est mis en arbitre de tout ça. Et en fait, il y a des terres conflictuelles là où eux, les cumulards, veulent des terres et des gens, des squatteurs aussi, quoi. Et du coup, on a aussi fait beaucoup d'actions pour essayer de récupérer ces terres au maximum. Et le but, c'est aussi dans les années à venir de... Dès qu'il y aura des départs en retraite, qu'il y ait des gens qui se positionnent pour reprendre des terres et petit à petit avoir de plus en plus de terres, quoi. Et on a signé les baux, quoi. D'abord, il y a eu les 15, les COP, et puis maintenant, c'est les baux. Et l'autre truc aussi, c'est que nous, d'entrée de jeu, on a dit on veut racheter la ZAD, en fait. En fait, il y avait un peu un truc de... d'être autonome, en mode, tu dis fuck l'État et t'arrives, par le rapport de force, à créer une commune autonome, chose auquel... on n'était pas vraiment capable, même s'il y a eu des discussions en 2015-2016 sur entre autres ces questions-là. Mais en tout cas, on s'est dit là, quelle est la meilleure opportunité, là, maintenant que le projet est abandonné? Est-ce que c'est d'être locataire de l'État ou du conseil départemental? Est-ce que c'est d'acheter? Et on a fait beaucoup de recherches sur comment être propriétaire collectivement. Et donc, il y a un fonds de dotation qui a été créé. Un fonds de dotation, c'est un peu marrant. C'est sous Sarko que ça a été créé, plutôt pour les grosses entreprises qui défiscalisent. Mais en fait, il se trouve que les textes permettent ce que nous, on nous arrange, à savoir faire une entité qui, où il n'y a pas d'actionnaire, où ce que tu mets dedans, ça reste dedans, et ça restera dedans. Et si un jour ça fait faillite, ça devra donner tous ses fonds à une autre entité qui se bat pour les mêmes questions. Du coup, et la décision se prend par... nous, on a décidé que c'est par notre Assemblée Générale. Du coup, c'est vraiment une forme de juridique qui nous permet une propriété collective réelle, et du coup, nous, c'est ça qui nous intéressait, quoi. Et donc, on a créé un fonds de dotation. D'ailleurs, si vous voulez donner de l'argent pour ça, c'est la terre en commun. Et on a plus de 500 000 euros qui ont été donnés. Mais bien sûr, en face, en fait, jusqu'à un certain moment, les terres, on aurait pu les acheter. On espérait les acheter, mais en fait, c'est le conseil départemental qui a voulu les racheter. Et l'État a accepté de les vendre. Et donc aujourd'hui, en gros, quasiment tout appartient au conseil départemental. Et la question se pose aussi sur maintenant sur les bâtis, mais enfin on est en plein... C'est encore en train de se voir là. Il y a des ouvertures pour qu'on puisse peut-être acheter certains bâtis, mais on attend de voir, parce que aussi on veut pas... Enfin, il y a une maison, entre autres, qui veulent vendre 500 000 euros, et nous, on leur rit au nez. C'est un peu rigolo. Enfin, il y a eu tellement de rencontres entre des délégations et des gens, des politiques. Enfin, moi, j'en ai fait au niveau de l'habitat. Il y a des espèces de situations qui sont totalement incongrues où ils parlent de gros sous, qui veulent récupérer une maison pour la vendre 500 000 euros, puis on laisse parler, puis à un moment il y a quelqu'un de chez nous qui dit nous, notre offre pour 1 euro symbolique tient toujours, hein. Parce que en fait aussi ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont créé une situation d'exception qu'ils savent pas gérer eux-mêmes, quoi. Et donc en fait, c'est bien, ça me fait une transition vers la question de l'habitat que moi, sur laquelle je travaille énormément. Le truc, par exemple, sur l'habitat, c'est hyper clair, c'est qu'il y a des maisons qui sont insalubres, des gens qui vivent dedans, qui sont des squatteurs, et qui ne veulent pas vraiment trop payer, qui disent oui peut-être, mais on n'est pas trop chaud, quoi, tu vois. Et donc ils sont emmerdés parce que s'ils veulent nous louer des trucs, il faut qu'ils mettent aux normes. Pour mettre aux normes, ça coûte hyper cher quand c'est des maisons toutes pourries comme ça, et en plus nous on va refuser que les travaux se fassent pendant qu'on est là. On va dire ouais, non, peut-être pas, peut-être plutôt on va les faire nous-mêmes, tu vois, enfin bref, ni embrouille, quoi. Du coup ils sont là en mode merde, qu'est-ce qu'on fait ? Soit on garde les fermes, mais ça va nous coûter, enfin c'est une emmerde, soit on leur vend, ils vont bien vouloir, mais on va leur dire pas trop cher, quoi, 1 euro symbolique. Et du coup, ils sont là en mode ah. Et en fait, à chaque fois, sur plein de sujets comme ça, c'est assez intéressant ce qui s'est passé depuis 1 an ou 2, parce que après, eux, ils travaillent pour essayer de régler cette situation et nous avoir au piège aussi. Mais depuis 1 an ou 2, c'est vraiment une espèce de jeu d'échecs doucement, là, où en fait, on essaye de les laisser coincer, en fait, dans cette situation et de pas trop... Mais c'est compliqué de savoir où on en est, quoi. C'est un peu bizarre, quoi. Quand ils ont vendu tout au conseil départemental, je me dis, merde, c'est l'étau qui se referme. Enfin, il y a plein de moments où t'as l'impression que l'étau se referme sur toi parce que c'est de l'administratif. Ils nous auront, au final. Tu vois, même si c'est dans 40 ans, quoi. En fait, au final, une fois qu'ils nous ont fait mettre le doigt dans l'engrenage, on est quand même un peu en mode... Enfin, ils nous auront. Vous voyez, il y a des trucs où ça va être dur de tenir, quoi. Mais c'est un peu un espèce de... Comme ça a été depuis 10 ans, de toute façon, c'est toujours un jeu contre la montre aussi, ces trucs de squat, de tout ça, quoi. Il faut que ça dure, quoi.
Et donc, des baux, c'est pas des types de propriétés, c'est des locations.
Ouais.
Ok. Donc, le terrain appartient au département. Et il y a quelle surface qui est louée officiellement?
Nous, on en est à 340, je crois, 310. C'est un peu marrant, en 2018, avec l'abandon et le truc des baux, on a augmenté nos surfaces.
Ah ouais, ouais.
Il y a un truc un peu particulier, c'est que ça a un mauvais et un bon truc en même temps, c'est que le fait d'avoir à, comment dire, de se retrouver dans cette situation fait quand même que ça, comment dire, que ça demande de... Il y a des trucs qui sont clarifiés, en fait, hein. Je sais pas comment dire, ceux qui ont dû faire les trucs agricoles, ça a aussi obligé à un moment mettre les bouchées doubles sur ces trucs-là et à concrétiser certaines choses, à clarifier certaines choses. Et en fait, du coup, et puis ça a enclenché un combat plus clair sur le foncier qu'avant. On occupait des terres, on se battait contre des agriculteurs à des moments où on voulait récupérer des terres, où ça nous semblait juste, mais ouais. Là, ça, il y a aussi des projets agricoles qui sont devenus plus réels qu'ils l'étaient avant, et tout ça.
Donc, il faut payer chaque année pour ce beau, pour ces 300 hectares.
Ouais, je sais pas trop combien, mais c'est pas beaucoup. Il y a eu aussi tout un combat sur les, je crois que c'est 10 euros le, je crois que c'est 10 euros l'hectare à l'année. Du coup, si t'as 40 hectares, par exemple, les plus gros, ceux qui louent le plus, ça va être 40 hectares, je pense. Ça fait 400 balles à l'année. Je crois que c'est un truc comme ça. C'est parce que, mais il y a eu aussi un combat sur les clauses environnementales. C'est-à-dire que nous, on a dit, en fait, il y a tout un combat aussi en ce moment à dire, en fait, ce bocage, il est préservé parce qu'on s'est battu contre l'aéroport, parce qu'on vit autrement. Et en fait, vous, vous pouvez pas, vous, l'État, tout ça, faire les arbitres de tout ça et faire comme si de rien n'était et dire, ah oui, vous faites de l'agriculture conventionnelle, allez-y, vous faites du bio, allez-y. Et tout va bien se passer. Nous, on dit, bah non, justement, c'est pas possible, ça marche plus comme ça. C'est, si t'as quelqu'un qui fait de la merde à côté, dans le champ d'à côté, ça pourrit l'eau de la même façon, quoi. Et donc nous, il y a eu ce truc de faire des baux à clauses environnementales, c'est un truc qui existe, où t'as des engagements à pas couper les haies ou des choses comme ça. Et du coup, ça fait que c'est beaucoup moins cher que les parcelles. Mais bon, nous, je sais pas où trop précisément où ça aboutit finalement ou pas, mais le but c'était un peu de dire, il faut que ça bouge au niveau de tout le monde, en fait, si vraiment vous voulez être cohérent dans votre politique, parce que si on essaye de les mettre face à leurs propres contradictions, ils te disent ça, non, c'est moi le conseil départemental, en fait, ils veulent utiliser la ZAD pour se faire un costard vert, ils nous le disent d'ailleurs, franchement, dans des réunions avec eux, ils nous disent, ah, mais vous savez, la ZAD, nous, c'est notre vitrine écolo, machin et tout, quoi, c'est un truc de fou. Ils ont fait un projet de territoire pour la ZAD, où ils investissent de l'argent, mais pour récupérer un peu les biens, enfin, vous voyez, l'image de la ZAD, quoi. Et voilà, et nous aussi, on les renvoie à toutes leurs contradictions, à dire, mais en fait, si nous qui avons déjà des pratiques écolo, on accepte des clauses environnementales, ça change rien. Ce qui change, c'est si des gens ont des pratiques de merde et que vous les forcez à avoir d'autres pratiques, quoi. Mais ce qu'ils font pas, quoi.
Justement, à ce propos, par rapport aux paysans installés déjà, des historiques, comme tu dis, bien vécu du lard, quelle est l'influence éventuellement de la FNSEA d'une part et de la CONF d'autre part?
Je suis pas très très bon en politique agricole, mais nous on est plus proche de la Confédération paysanne.
Je t'en doute. Ce que je veux savoir, c'est parce que ce que tu disais, c'est qu'il y a pas mal d'historiques et surtout les cumulards qui refont de la culture conventionnelle, etc., glyphosate et compagnie. Donc pour pouvoir changer le rapport de force, éventuellement, c'est de savoir qui, localement, au niveau des instances, entre guillemets, paysanne, c'est-à-dire de toutes les plus connues, effectivement, la FNSEA d'un côté et la Confédération paysanne de l'autre, est-ce qu'ils sont présents, est-ce qu'il y a une influence, est-ce qu'il y a des rapports de force qui vont d'un sens ou dans l'autre, et en même temps, au niveau des baux que vous avez mis en place, est-ce que c'est des baux plutôt, disons, d'autosuffisance, ou est-ce que c'est des baux pour avoir aussi des rapports avec l'extérieur, avec la ville, et des échanges, etc.
Alors il y a deux questions. Dans la question des baux, je pense qu'il n'y a pas de différenciation dans les baux. Les baux, tu vois, quand on fait des baux agricoles, ça ne dit pas dedans ce que tu en fais.
Non, je suis d'accord. Je m'en doute, c'est en pratique.
Mais pratiquement, nous, après ça, sur nos formes d'agriculture, du coup, je pourrais développer plus nos formes d'agriculture, et là, parce que c'est divers. Et sur la question des rapports de force paysans, il y a un truc un peu particulier, je ne sais pas si tu sais, mais à Nantes, je crois que c'est plus le cas, mais la Confédération paysanne a été au pouvoir pendant longtemps, là, je sais pas comment on dit, à la chambre, machin. Mais sauf que ce que disent, moi je te dis, c'est que des trucs que j'entends, je vis avec des gens qui font de l'agriculture, moi je suis pas du tout là-dedans, du coup, un truc qui me dépasse un peu. Mais ils disent que par contre, ils sont au pouvoir, mais c'est les plus cons qu'il y a en France, quoi. Mais pour être au pouvoir, c'est soit qu'ils ont été un peu eus par le pouvoir, soit que pour y arriver, bah, il a fallu qu'ils fassent des compromis, quoi, je sais pas trop. Mais en tout cas. En tout cas, la FNSEA les gens qui sont les cumulards sont souvent affiliés à FNSEA et la FNSEA est de leur côté et se bat comme ça. Et nous, on est un peu, il y a des appointances un peu avec la Confédération paysanne qui fait partie de Copain 44, qui était le gros collectif d'agriculture. Mais je ne saurais pas dire t'en dire beaucoup plus. Et après, sur nos formes d'agriculture, Il y a plusieurs formes que je ne saurais pas toutes décrire hyper bien, mais pour, je sais pas, il y a comme tout un éventail, quoi. Je partirais du jardin du Rouget Noir qui est juste à côté de chez moi, qui est un jardin de subsistance collective, à savoir aucun rapport marchand, prix libre, des chantiers tous les mercredis où tout le monde peut y aller, pour produire des légumes qui servent en priorité aux différents collectifs qui participent. Ensuite, à des approvisionnements pour les cantines de lutte de la région nantaise. Et enfin, il y a un petit marché prix libre sur zone qui avant était gros et maintenant est un peu en déclin. Et peut-être qui pose de grandes questions. La question de refaire marché collectif sur zone, ça, c'est pas un sujet hyper simple. Et après, tu as toutes les formes, tout plein d'autres formes qui existent. Tu vas avoir des gens qui sont soit seuls, soit en binôme. Qui font des choses, et c'est vrai que ça me fait penser à des copains là que je sais pas précisément comment ils fonctionnent, des copains qui font de l'élevage et du miel en même temps, par exemple. Il y a de la vente, beaucoup sont mis à faire de la vente. Je sais pas à quel point ils sont clairs sur comment ils veulent fonctionner, sur leur mise en commun, enfin, sur qu'est-ce qui, j'imagine, vu les copains que c'est, qu'il y a forcément une pensée derrière de pas juste se mettre en petit paysan. Du coup, je sais pas si déjà ils apportent beaucoup pour la cagette, des trucs de soutien, s'ils ont un plan précis en tête, je sais pas précisément quoi. Et y en a d'autres aussi, par exemple, il y a une grosse coopérative où ils sont 40, du coup, des gens de la zone qui sont créés une coopérative ensemble, et là, ils sont hyper diverses. Il y a des gens qui font de la charpente, des gens qui font de la foresterie, des gens qui font de l'agriculture, et du coup, là, eux, ils essayent de faire un truc où ils ont tous fonctionné ensemble. Et mettre leur et du coup là l'agriculture qui est faite par certains elle va pour nourrir tous ceux de la COP quoi. Mais beaucoup du coup il y a quand même encore beaucoup de cultures qui sont lors de la subsistance quoi. Et quand il y a des choses qui se vendent petit à petit, mais souvent c'est souvent pensé dans un rapport aussi de comment faire un peu d'autonomie mais tout en se tuant pas à la tâche et en ayant du sens dans ce qu'on fait quoi. Et la dernière lutte aussi qu'on a en cours, dont je parlais tout à l'heure, un peu marrante, c'est le truc des habitations, parce que toutes nos constructions sont illégales encore, au jour d'aujourd'hui. Et on est squatteur de toutes les maisons, en fait. Il n'y a aucun beau logement qui a été mis en place depuis l'abandon de l'aéroport. Il y a un espèce de flou, parce que c'est d'une complexité qui règle un peu tout leur truc, là. Et puis nous, on n'a pas vraiment de recherche d'intérêt vraiment par rapport à ça. Et entre autres, il y a deux choses, même les maisons en dur, elles sont toujours pas en bail, pour aussi les raisons que j'expliquais, de normes, de machin, et on verra bien comment ils s'en sortent, mais c'est aussi pour ça que nous on leur dit, mais juste vendez-nous, ça va bien se passer, vendez-nous tout, et puis on va se démerder, ça va très bien se passer, mais eux ils sont un peu emmerdés quoi. Et sur les terres, il y a aussi, sur les bâtiments, il y a aussi le truc de plein de choses ont été construites mais pas détruites, et ce sont pas dans les règles d'urbanisme. Et donc là on est dans une phase où là on a posé une dizaine, puis une quinzaine qui va suivre là quand je rentre dans deux semaines, où beaucoup de choses doivent être régularisées dans le nouveau plan local d'urbanisme. Mais malgré tout, nous on veut se battre pour que des exceptions puissent exister. En fait, quand ils ont fait le nouveau plan local d'urbanisme, quand ils ont commencé, c'était encore un aéroport. Du coup, quand c'est une zone aéroportuaire urbaniste et niveau urbain. Jusqu'à il y a deux mois, là, ça y est, ça vient de repasser en mode zone naturelle et agricole. Mais du coup, quand il y a eu l'abandon de l'aéroport, dans le nouveau PLU, il pensait la passer de nouveau en aéroportuaire, vu que ça devait être un aéroport. Du coup, quand ça a été abandonné, ils ont juste dit en mode c'est pas un aéroport, juste c'est de l'agricole et du naturel. Nous, on a fait une contribution à ce plan local d'urbanisme, qui fait 45 pages ou 50 pages, qui nous dit toutes les spécificités de ce territoire, de sa lutte, de comment on y vit, des spécificités. Pour dire qu'en fait, dans un plan local d'urbanisme, tu dois prendre en compte de ce qui s'y vit, quoi. Tu vois, si tu as des politiques, ils font un nouveau plan local d'urbanisme d'un endroit et que tu as des gens qui font, je sais pas pourquoi, je pense à un truc équestre, parce qu'il y en a plein dans notre région, mais bon, bref, bouge pas, enfin, il y a un village vacances ou je sais pas quoi, il va être obligé, enfin, il y a un moment, il va en parler, quoi. Nous, là, ils parlent pas de la ZAD, ils font, comme si rien n'existait, quoi. Donc, nous, on a fait cette contribution et aujourd'hui, on veut revendiquer aussi le fait qu'on a fait cette contribution. Que ce plan local d'urbanisme, il n'est pas valide, parce qu'il ne prend pas en compte la réalité. Et du coup, on veut demander qu'il y ait des exceptions à la règle pour que des habitats légers, écologiques, puissent exister, quoi. Et on espère bien aussi que ça pourra servir ailleurs. Quoi. Et entre autres, maintenant, quand je vois ici, quand je viens dans les Cévennes, en plein endroit où je vais voir des gens, et moi, vu que j'ai fait des études d'archi, j'aime bien aider sur ces questions-là tant que je peux. Quoi. Il y a plein d'endroits où des gens ils habitent de façon bien plus intelligente que ce que permet la loi. Mais la loi ne le permet pas, malgré la loi Allure qui a été faite il y a 4-5 ans, qui a un peu des aménagements mais qui ne marche pas. Du coup, les maires, ils n'osent pas le faire. Et il faut qu'il y ait un plan local d'urbanisme. Et du coup, bah, c'est un peu aussi un des nouveaux combats. Là. On ouvre la brèche, on aimerait ouvrir la brèche de ce truc-là à la ZAD pour que ça aussi fasse un peu comme une jurisprudence et puisse servir un peu plus largement. Quoi. Que ça commence à être. Et en même temps, et c'est marrant parce que c'est aussi ces trucs qui ne sont pas hyper faciles pour nous, vous voyez, de cette période, c'est que. On passe d'un truc où on se fait casser la gueule par l'État, par le département, par tout ça, à essayer de changer des lois alors que juste des fois t'as envie de tout brûler quoi. Enfin, vous voyez, c'est un peu des fois le truc de qui est pas toujours facile quoi, de ce passage d'une phase à une autre quoi. Où t'as découvert, moi j'ai découvert à la ZAD, je connaissais pas, même pas ressenti intérieurement comme ça la violence de l'État, la violence policière, la violence de la diplomatie, enfin pas de la, c'est pas de la diplomatie, mais vous voyez. L'espèce de gentil flic, méchant flic entre la préfecture et le général, machin. Enfin, c'est un truc où. Là, ça t'a fait. Enfin, moi, j'ai découvert pourquoi t'as les strips qui sortent quand t'es dans ces moments-là, quoi. Et quand, un an après, il faut essayer de. Enfin, tu te retrouves comme ça dans les bureaux. Enfin, moi, je me suis retrouvé au conseil départemental, là, à négocier, à papoter d'habitat, machin. Et t'es en mode. C'est des fois, t'as pas envie d'y passer du temps, quoi, dans ces bureaux, quoi. Et tu te demandes ce que tu fous là, quoi. Mais c'est bizarre, du coup, on essaye quand même un peu ça, et puis... Mais ce qui est assez rigolo, c'est que là, ces derniers temps, des fois, j'ai eu l'impression qu'on n'en avait rien à faire, en fait. On a une force en nous, qui est justement un peu ce que je disais tout à l'heure, d'avoir connu... En fait, on n'a pas trop peur, en fait, vous voyez, il y a un peu... Enfin, moi, je le ressens un peu comme ça, des jours... Après, il y a les copains qui ont leur nom, tout ça, c'est beaucoup plus compliqué. Mais il y a un peu un truc de... En fait, on va tenir ici, quoi qu'il arrive, et des fois aussi, c'est un peu... J'ai l'impression qu'ils le sentent, que c'est un peu notre force d'être en mode... On connaît mieux les lois que n'importe quel petit citoyen. Enfin, que beaucoup de gens ne savent pas, quoi. Et du coup, on tient tête aussi, sachant quel risque on prend. Et on va pas s'inquiéter. Là, ils disaient qu'ils allaient nous mettre des procès-verbaux pour construction illégale. Allez-y. Et on se démonte pas pour quatre pauvres coups de pression qu'ils nous mettent, quoi. Et ça, c'est aussi le truc, des fois, qui moi que je découvre de ce lieu, où j'ai l'impression de... Ça me donne de la force, en fait, de collectivement dire... Même quand il y a des embrouilles comme ça, on est en mode bon, bah on continue les copains. Oh, on continue, on y va. Salut.
Ouais. Est-ce qu'au niveau des équipements collectifs, par exemple, des écoles, tout ça, c'est des projets pour localiser le lieu, ou est-ce que c'est seulement des plans de l'habitat et...
Si vous voulez boire des coups, hein, on va boire. Sur les. Sur ce qui est de la question des écoles, déjà il y a plein d'enfants qui naissent en ce moment. C'est un peu la folie. Toute proportion gardée, mais quand même. Il y a une école d'Iwan, c'est les écoles bretonnantes, qui, du coup, ça c'est des gens, moi je vois toujours pas qui c'est. En tout cas, il y a un groupe de gens qui voudraient installer une école bretonnante, et du coup, ils voudraient l'installer dans une des maisons là, qui a été détruite par un incendie. Et on a posé un permis de construire pour ça, du coup, on attend de voir ce que ça va donner. Il y a des crèches partagées. Les enfants, là, ils vont tous à l'école de Notre-Dame-des-Landes, là, les jeunes. Là. Enfin, parce qu'ils ne sont pas très grands, hein. Les plus grands, ils ont 6-7 ans, je crois, un truc comme ça, peut-être plus. Et un peu plus. Au nombre qu'on est, c'est toujours pareil, on peut pas imaginer qu'on va faire un collège, un lycée, ça n'a pas vraiment de sens, quoi. Mais il y a ces volontés-là, quoi. Et après, ça c'est au niveau des écoles pour les enfants, mais il y a un truc de faire école en permanence à la ZAD, qui est présent dans nos philosophies. Enfin, moi je vois, j'ai pas débarqué par hasard à la ZAD, déjà mon diplôme d'archi, il y avait un espèce de truc de comment se réapproprier les savoir-faire, c'est une façon d'autonomie. C'est la force, vous voyez, la transmission de tout ça. Et ça, c'est hyper présent, en fait. Les chantiers collectifs, les chantiers d'apprentissage, ils ont toujours été présents. Et là, particulièrement, quand même, il y a certaines équipes qui ont quand même formaliser ça encore plus, il y a un hangar qu'on appelle le hangar de l'avenir qui a été construit par des charpentiers traditionnels. Et c'est un chantier école permanent en fait. Moi j'ai appris à faire des legs dessus, de l'ardoise, de la charpente traditionnelle. Là récemment, là, je ne l'ai pas fait, mais il y a eu un chantier terre. Pareil, il y a un autre. En fait, il y a plein de chantiers qui font école permanente en permanence. Et il y a quand même toujours un peu ce truc, même si c'est pas hyper facile et pas toujours hyper formalisé, un espèce de truc de volonté de transmission, quoi. Après, il faut avoir l'énergie, c'est pas toujours facile, comme la boulangerie, quoi. Il y a la boulangerie collective là au Fosse Nord où on est. Quelqu'un qui débarque sur zone et qui dit moi je veux apprendre à boulanger, s'il demande aux boulangères et boulangers et que ça se passe plutôt bien le feeling, et ben il va pouvoir faire plusieurs matinées, enfin plusieurs journées de boulanger et apprendre à boulanger, quoi. Du coup, ça, il y a un truc assez présent, et ce chantier école là a aussi vraiment formalisé cette volonté. Pareil sur les chantiers de bûcheronnage, là je rentre dans 2 semaines pour le chantier qui commence le 6 là. Et ben pendant 10 jours, c'est hyper organisé, on va être je sais pas une cinquantaine et ou plus dans la forêt. Et donc tu es avec des bûcherons plus ou moins expérimentés et on t'explique plein de trucs sur les essences, sur le maniement de la tronçonneuse, sur la régénération de la forêt. Il y a ceux qui vont faire le débardage à joie et tout. Et du coup, il y a toujours cette volonté de faire ensemble parce qu'on est plus fort à faire à plusieurs. Et aussi parce qu'en fait, quand on fait à plusieurs, on transmet, quoi. Les deux vont ensemble en permanence, quoi. Enfin, moi, c'est un truc qui me fait sens. Et il y a aussi d'autres potes, dont pas mal qui sont un peu du milieu de l'art, qui font un peu des trucs assez marrants. Il y a entre autres un phare à la ZAD, ça me fait penser à ça, parce qu'il y a un copain qui est assez connu dans le monde de l'art activisme, comme on l'appelle, et qui est un peu débarqué avec une idée bille en tête de construire un phare, et du coup, ben, comme beaucoup de choses se font un peu follement à la ZAD, il s'est trouvé que du coup, ça finit par exister, donc il y a un phare de 18 mètres de haut, avec une lumière, une sirène, tout ça, qui est une gueule de phare. Parce qu'on prévoit la montée des eaux, du coup on s'est dit et eux ils veulent faire l'école des écoles, parce que aussi on est connecté à plein d'autres lieux en fait. Moi aussi j'ai découvert ce truc, je suis arrivé à la ZAD, ah mon dieu la ZAD c'est incroyable et tout, puis en fait je me suis rendu compte que la ZAD c'est un truc qui a fait émerger d'autres choses, mais en fait qui n'a pu exister que parce que ça se passe ailleurs en fait, que des squats il y en a partout en France, qu'il se passe des trucs partout. Il y a Tarnac, moi, que j'ai découvert aussi, et plein de choses. Et en particulier Tarnac, là-bas, il y a l'école de la Terre qui a été créée, un peu inspiration du Chiapas. Au Chiapas, il y a l'école de la Terre aussi. Et donc, il y a un peu cette volonté vraiment d'aller au bout de cette volonté de déserter le système tel qu'il est, mais du coup, de créer nos propres façons de transmettre, nos propres imaginaires. Et donc, il y a l'école de la Terre qui existait déjà, le chantier école, il y a des copines qui ont fait l'école des renardes, c'est des gens qui passent le CAP charpente, enfin à la base c'était pas pour passer le CAP, c'était pour apprendre la charpente ensemble, et il se trouve que là les 2 dernières sessions elles étaient à chaque fois au moins 10 et à chaque fois elles ont passé le CAP, et à peu près tout le monde l'a eu, je crois, ou tout le monde l'a eu, je sais plus.
Depuis 14.
Je pense. Et il y a, l'école de philosophie aussi, ça je connais moins bien quelle est la forme comment les gens s'organisent là-dedans. Et là, cette année, il y a un chantier école qui va avoir lieu, je ne sais plus trop quand, où il y a un peu cette envie de faire école des écoles, comme ils ont appelé ce truc-là. Et en gros, c'est de faire une espèce de session qui va durer 2 semaines, où il va y avoir, comme dans le chantier école, on va refaire entièrement un sleeping, enfin un dortoir, machin et tout. Du coup, il va y avoir moyen d'apprendre de la charpente, tout ça, la menuiserie, mais il va y avoir aussi moyen d'apprendre de la cuisine. Il y a une anthropologue qui vient et qui va parler de la question des rêves, parce que le but, c'est de concevoir un sleeping, tout ça, et pas juste faire de la technique, mais de créer un imaginaire autour de qu'est-ce que c'est que dormir, qu'est-ce que c'est que les rêves, tout ça. En parallèle, il y aura du coup des sessions de philosophie, des trucs comme ça. Et un peu, c'est cette volonté, un peu tous azimuts, à des moments où... Mais ça, c'est plus comme... Ça ressemble plus à quelque chose qui ferait écho avec la fac, vous voyez, où j'ai l'impression en termes de moments de vie ou de moments d'apprentissage, quoi. Mais je pense que ouais, y a un peu cette volonté-là, quoi. Et c'est lié, ça me fait penser au rituel, là aussi, parce que les copains, là, qui font ça aussi, on a tout un truc de rituel, on fait souvent des rituels un peu marrants, parce qu'on pense qu'il faut se réinventer des imaginaires un peu marrants, quoi. Et des fois très incarné. Genre par exemple sur les permis de construire qu'on a posé, là il y a des potes qui nous ont construit, comment ils appelaient ça, un siglif ou un siglif, je sais pas comment ils appelaient ça. Et ça vient de Damasio, je crois, le terme. Mais c'est.
Surtif.
Ouais, mais c'est un nom qu'il utilisait. Je crois que ça vient de lui, je suis pas sûr. Mais en tout cas, c'est comme un tampon. Et là, en l'occurrence, elles ont pris, on construit ici, on reste ici. Elles ont gardé que les voyelles, je crois, ou un truc comme ça. Et du coup, ça fait un signe un peu chelou. Enfin, que les voyelles et que en phonétique. Et du coup, elles ont fait ce tampon-là. Et ce tampon-là, on l'a mis sur nos permis de construire. On a un peu trippé, mais on arrive avec le tampon de nos permis. Et à côté, le jour où on a posé les permis, on a fait un truc un peu marrant, là, parce qu'il y avait la fête de la victoire vendredi dernier, là. Et du coup, on fait toujours des fêtes un peu incroyables. Le matin, ou non, le mercredi d'avant, on est allé poser les permis. Le vendredi, on a levé une charpente. Une charpente d'un permis qu'on avait posé le mercredi, quoi. Du coup, après, dans les journaux, ils disaient les Zadis posent des permis, mais n'attendent pas les réponses pour construire. Et, ah, bah, ouais, c'est exactement nous, ça. Et on a levé la charpente, et du coup, l'espèce de rituel à la fin, c'était assez marrant. Il y avait une espèce de personne qui arrivait avec une espèce de timbale, qui avait des gâteaux dedans, et il avait un masque en paillettes, et derrière lui, il y avait quatre personnages avec des grandes robes noires. Et des masques en terre cuite hyper beaux. Et lui, il marmonnait un truc sur les gens à cravate et les pendes, ou je sais pas quoi. Enfin, c'était pas très clair. Et il allait voir les gens et il distribuait des trucs à bouffer, là. Et ouais, mais il y a des symboliques chelous, des fois, tu sais pas trop. Et les autres, après, ils sont positionnés vers les quatre poteaux de la bâtisse qu'on venait de construire. Et le premier, là, après, il allait récupérer de la boue au centre de la construction. Il en a mis dans chacun, avait retourné leur masque comme ça. Et ils avaient aussi dessous un truc en paillettes. Et les gens, après, allaient prendre de la boue dans les masques pour faire les symboles, là, le sigli qu'on avait fait, là. Sur un peu, vous voyez, comme pour donner de la force à la construction. Et à la fin, ils ont pété les masques dans le sol pour qu'ils restent dans les fondations, quoi. Et pareil, sur la forêt, on a fait un truc comme ça, où on a fait le tour de la forêt en faisant chacun des intentions autour de la forêt pour la protéger de l'ONF. Enfin, de l'ONF. L'ONF, à l'origine, c'est quelque chose de pas trop mal, mais il y a un truc qui tourne mal, et de tous les gestionnaires forestiers. Et du coup, bref, ça me fait penser à ça, parmi les mille autres choses qui se vivent à la ZAD, il y a ce truc un peu de certains aussi qui mettent de l'énergie à essayer de recréer des espèces d'imaginaires communs. Et, comme ça. Pour la petite anecdote. Il s'en passe des choses, là.
Hein. Moi, je suis intrigué par ceux qui étaient plus quand il y avait la période de lutte, un peu plus physique. C'est marrant, maintenant, vous êtes plus nombreux ou moins nombreux qu'à
ça? Moins nombreux.
Moins nombreux. C'est marrant parce que normalement, sociétalement parlant, on le voit plutôt à l'envers, quoi. La peur... de l'autorité ferait que normalement on devrait être plus aujourd'hui entre guillemets à la ZAD pour construire, dans le sens où c'est plus vous avez créé un terrain en fait pour pouvoir expérimenter, pour pouvoir apprendre. Par exemple, moi par exemple j'aimerais aller vers l'autosuffisance, mais je sais pas faire forcément grand chose de mes mains, donc c'est des lieux où et je trouve bizarre le fait qu'au moment de la confrontation physique il y ait plus de monde que maintenant entre guillemets, où c'est plus ouvert à tout le monde, enfin, c'est entre guillemets, quoi. Parce que je conçois que, par exemple, je le vois pour faire un lien avec les gilets jaunes, la majorité des gens, ils ont quand même cette peur, premièrement, parce qu'il y en a qui ne sont pas conscients de la réalité que l'État est peut-être très violent. Je sais pas si... Et du coup, est-ce qu'il n'y en a pas qui ont quitté aussi, dans l'autre sens, certains qui ont quitté la ZAD parce qu'ils n'avaient plus ce côté-là, un peu d'affrontement physique, si je peux dire, entre guillemets.
C'est pas pour ça que les gens sont partis vraiment, parce que, tu vois, entre 2013... et 2018, il n'y avait plus d'affrontement, c'était fini. C'était au contraire, c'était une zone libérée. Un peu, ça me fait penser à Christiana, c'est un quartier de à Copenhague qui est comme ça, un espèce de lieu libéré hyper particulier, quoi. Et du coup, c'était plutôt un lieu, tu vois, free, où tu peux faire ce que tu veux, mais il n'y avait pas vraiment ce rapport d'affrontement aux flics, ils n'étaient pas là, quoi. Mais il y avait un imaginaire commun de construire autre chose aussi. Et en termes d'ouverture, je dirais pas que c'est plus ouvert aujourd'hui. Il y a un truc un peu questionnant sur qu'est-ce qui est plus ouvert ou pas. Il y avait un univers à l'époque qui est quand même particulier. C'est comme quand tu rentres dans un squat, en fait. Tu vois, il y a plein de gens, ils sont, oula, mon Dieu, tu vois, il y a trop de repères qui les effraient, ou qui, tu vois, où t'es là, où tu vas croiser quelqu'un qui est à moitié défoncé, quelqu'un d'autre machin et tout. Et il y a des gens, ils savent pas réagir à toutes ces situations-là, tu vois, et du coup, c'est. Mais en même temps, par contre, si t'arrives complètement depuis la rue, tu vas pas te sentir rejeté, quoi. À l'inverse, aujourd'hui, si tu arrives et que tu es un peu plus classique, peut-être tu vas te sentir moins mal à l'aise parce que ça ressemble. Aujourd'hui, la ZAD, elle ressemble à un truc plus classique, tu vois. Par contre, si tu es un peu perché chelou, peut-être que tu vas pas te sentir à l'aise à la ZAD aujourd'hui, alors qu'il y a, 3 ans, tu seras senti, tu vois. Du coup, l'ouverture d'un lieu par rapport au monde, tu vois, ça, c'est toujours un peu dépendant, quoi. Et ce qui fait qu'il y a du monde qui est parti, c'est, je sais plus si je le disais très clairement, mais c'est que c'est le fait qu'il y a des gens qui, et enfin, moi aussi, enfin, d'ailleurs, enfin, je sais pas comment dire, il y a ce truc de, entre 2013 et enfin, jusqu'à 2018, il y a toujours eu le truc de, qui planait de se dire, waouh, il y a un espace libéré, tout est possible, on va construire autre chose, machin et tout, quoi. Et ce qui s'est passé en 2018 et le fait que des gens signent et tout, ça a aussi fait un truc de, ah non, ça va se normaliser, quoi, et on n'y est pas encore, on paye pas encore de loyer et tout, mais c'est un peu la pente glissante vers autre chose. Et du coup, plein de gens qui ont vécu en squat pendant des années, qui se battent pour un truc non marchand et tout, pour eux, ça les a dégoûtés, tu vois, ce qui s'est passé. C'était en mode, c'est la fin. C'est la fin des imaginaires qu'on a mis dans la ZAD et toute l'énergie qu'on a mis dedans. Il y a beaucoup de gens qui sont déçus, tristes, tu vois, parce que ça meurt avec cette phase-là, quoi. Enfin, ça meurt. Moi, je pense que ça meurt pas si clairement que ça, parce que la volonté qu'il y a, elle est quand même de pouvoir cacher certaines choses grâce à ceux qui se mettent en paravent. Et ça, en partie, c'est vrai, mais en partie, c'est pas vrai, quoi. Parce qu'en partie, c'est vrai, oui, que les gens qui se mettent en paravent, ils franchement, même, je pense qu'il y en a même, ils seraient prêts à bosser quasiment classiquement, et puis derrière, à cacher ce qui se passe. Mais en vrai, dans ce qui se passe dans tous les jours, c'est beaucoup plus compliqué, quoi. Il y a quand même un moment où c'est trop dur si tu payes tout seul les trucs. Ouais, enfin bon, bref. Ça crée des complexités qui sont pas les mêmes, quoi. Que cette espèce de truc, et c'est ce qui est particulier à la ZAD qui a existé pendant ce temps-là, c'est qu'à un moment, il n'y a plus l'État. Il n'y a personne pour dire qui doit de l'argent à qui machin. Et du coup, c'est en même temps compliqué, comme je disais, comme sur cette histoire de la route, parce que tu as des bisbilles qui. Tu vois, il n'y avait jamais personne pour trancher, tu vois. C'était malvenu si tu tranchais. Tout le monde avait participé à libérer ce territoire, que, tu vois, en se battant contre la police en 2012-2013, machin. Et du coup, c'était hyper intéressant et en même temps compliqué, ce truc de... Il n'y a pas une parole au-dessus des autres pour trancher, quoi. Du coup, tout est discussion, tout peut durer 15 000 ans. Du coup, il y a aussi les gens qui, à un moment, en peuvent plus, quoi. Tu vois, des gens qui veulent avancer, faire des trucs, et à un moment, ils disent, en fait, on tourne en rond depuis 2 ans, quoi, là, c'est fini, quoi. Et d'autres, au contraire, qui trouvent ça génial parce qu'ils trouvent que c'est une expérimentation sociale qui s'arrête pas, tu vois. Et c'est ça qui est plus le cas aujourd'hui. Du coup, aujourd'hui, il y a plein de gens qui étaient très attirés par la ZAD pour différentes raisons qui retrouvent pas du tout ça, quoi. Et plein qui partent, quoi. Et il y a encore aujourd'hui des gens qui sont restés sur zone. C'est tous ceux qui défendent le plus les trucs non marchands, c'est particulièrement ceux-là qui ont du mal à se projeter, à se sentir bien là-dedans. Enfin, non marchands, c'est dans le sens...
Ils ne sont pas que ça vienne finir par ressembler un peu à un cadre qui existe.
Ouais. Ceux qui veulent vraiment tenter de faire exister, tu vois, ce qu'on appelle les marchés rouges, quoi, ou les trucs où vraiment tu vas jamais, à aucun moment, définir un prix, quoi. Tu vas toujours être en prix libre, stricto sensu, et tu vas toujours chercher un équilibre. Qui est-il un équilibre? Je ne sais pas, mais... c'est un équilibre, mais où la main-d'œuvre n'est pas payée, quoi. Tu vois, où plein de gens préfèrent... c'est des discussions que j'ai eues encore il n'y a pas si longtemps, quoi. Est-ce que tu veux, tu vois, toi, être genre au RSA ou quel mode d'argent qui te permet à côté de faire que de la solidarité, quoi. Alors que d'autres se disent, moi, je veux réussir à vendre en partie mes produits pour pouvoir avoir une part de solidarité, mais sans compter sur l'État, quoi. Et il y a plusieurs formes qui... Mais forcément, c'est les plus fragiles qui sont les plus menacés en ce moment, quoi. Tu vois, et c'est beaucoup plus dur aujourd'hui pour des gens dans des situations très fragiles d'être... c'est plus dur qu'avant, quoi. Mais tu vois, quand même, malgré tout, comme je dis, quoi, il n'empêche que ça continue. On a 30 personnes exilées qui vivent sur zone, qui n'ont aucun revenu et qui vivent avec nous, tu vois. Et ça marche, tu vois. Et ça, faut que ça puisse continuer. Enfin, et du coup, c'est cette espèce d'équilibre qui n'est pas simple. Et puis, c'est dans les rapports humains aussi, quoi. C'est aussi des embrouilles d'années, de tentatives, de visions politiques un peu différentes, d'incompréhension ou juste de différents profonds politiques, quoi. C'est aussi ça qui fait que un peu.
En plus, des fois, juste un petit élément, ça peut déclencher. Ouais.
Et puis, il y a un truc aussi, c'est que. Ouais, je pense que pendant longtemps, il y a beaucoup de monde qui a débarqué, qui s'installait comme ça et tout, un peu à l'arrache. Je pense que plus ça va, plus c'est aussi assez compliqué quoi, d'arriver dans un univers établi où les gens ils sont là, tu vois. C'est... Puis surtout, vu que ça s'est un peu rigidifié quand même. Dans le sens où, tu vois, c'est plus clair, les gens qui sont là, qu'est-ce qu'ils font, ceux qui ont des beaux, machin et tout. Et ça, c'est sûr que ça fait un truc moins, moins free de t'arrives, tu construis ta cabane où tu veux, même si ça a toujours été le cas, qu'on a toujours dit en mode, bah, c'est quand même mieux, de, et c'est quand même un peu le cas d'aller voir les gens autour et tout ça, quoi. Mais avant, c'était quand même plus à la Walligan, quoi.
Justement, quels sont les rapports de l'ensemble des squatteurs au sens large avec la commune, la municipalité de Dandelande dont vous dépendez, puisqu'en plus il y a des élections municipales dans pas longtemps, les gens, les différents candidats, qu'est-ce qu'ils en disent, est-ce que je suis content de dire bon c'est à côté, ou est-ce qu'il y a des projets plus ou moins vicieux qui peuvent intervenir?
C'est assez marrant parce que justement c'est un peu un des gros sujets du moment là, foncier, habitat, commune. J'ai envie de raconter vite fait l'anecdote de mes cohabitants qui fait beaucoup de rap et qui est assez rigolo et surtout qui est une des rares personnes. Il y a des gens qui ont fait un peu des demandes de logements sociaux, je sais pas trop pourquoi, sur zone, sur les mairies, des coins, tout. Mais lui surtout, il a fait un truc rigolo il y a plus d'un an ou deux, je sais plus. Il a fait sa demande d'inscription aux listes électorales. Et lui, il vit dans une ferme, il est squatteur parce qu'on n'a pas de bail. Mais c'est lui qui paye les lecs et c'est lui qui paye les poubelles. Parce que depuis l'abandon de l'aéroport, certains ont des poubelles. Il a demandé. Il a fait sa demande d'être aux listes électorales. Il est allé à la mairie, il a croisé le maire dans le couloir, machin. Le maire lui a dit oh, bah, j'espère que vous n'allez pas tous vous faire mettre à faire ça. C'est un peu rigolo. Mais surtout, ils lui ont refusé son inscription au motif que ce n'était pas son habitat réel ou un truc comme ça. Mais le plus drôle de tout, c'est qu'ils lui ont envoyé cette lettre là où ils demandent. Vous voyez le truc quoi. Et ça, ça n'arrête pas. Des histoires comme ça, on en a des tonnes. Pareil, il y a des potes qui devaient être. C'est pourquoi je fais les. Ils nous racontaient ça là, l'autre jour, des potes pareil. Ils ont reçu un huissier qui leur déposait un avis d'expulsion. Ah oui, c'est ça, un avis d'expulsion. Et il y avait la case remis, je sais pas où, à leur domicile ou envoyé. L'huissier avait coché à leur domicile, alors même que l'avis d'expulsion était parce que c'était pas leur domicile, quoi. Truc qui a aucun sens comme ça, quoi. Et donc voilà. Et donc bah, le rapport aux mairies, plutôt jusqu'à maintenant, on n'en avait pas parce qu'on cherche pas trop la voie démocratique municipale ou autre, quoi. Je sais pas. Enfin, c'est pas la culture pro à la base ou la recherche à la base. Et par contre, des liens, il y a toujours eu des tentatives de faire des liens avec des gens des alentours. Il y a eu des tournées. Avec des dépôts dans des boîtes aux lettres, de rencontres et de discussions. Il se trouve que dans la nouvelle phase, ce qui change pas mal la donne, c'est le truc que je disais sur l'habitat. C'est que c'est les maires qui vont avoir la responsabilité de nous autoriser ou non nos constructions et d'autoriser ou non des exceptions au plan local d'urbanisme. Du coup, on s'est dit, il faut peut-être quand même un peu qu'on prenne contact avec eux, quoi. Et donc là, entre autres, on a posé les permis de construire, on en a un peu profité pour aller à la mairie, un peu papoter avec la secrétaire, parce que le maire qui avait dit qu'il serait là n'était pas là. Et c'est un peu comme ça aussi sur les autres mairies. Après, sur ce qui est de eux, ce qu'ils en disent, c'est pas très clair. Ils n'ont pas l'air de jouer la carte de l'antizadisme primaire, mais ils font pas non plus un truc hyper bienveillant envers nous, quoi. Et là, c'est en train de se jouer. Je pense qu'en fait, ils espèrent un... Là, en tout cas, il vient de se créer sur Zone, il y a là, la semaine dernière, des groupes par commune pour celles qui veulent aller s'inscrire sur les listes, quoi. Ça peut être pour différentes raisons, ça peut être autant pour réellement voter que pour juste leur mettre un petit coup de pression. Parce que c'est aussi ça le truc, c'est toujours un aller-retour avec les différents, que ce soit avec le conseil département, la préfecture ou les mairies, on est toujours obligé de jouer comme ça des jeux de rapport de force, quoi. Et du coup, si à un moment, par exemple, dans les modes de petits rapports de force un peu marrants, bah là, il y a 8 camarades qui sont allés au vœu du maire de Notre-Dame-des-Landes, quoi. Et entre autres, ceux qui étaient menacés de procès-verbaux pour construction illégale, quoi. Du coup, ils y sont allés direct pour voir le maire. Et commencé à faire des bons petits citoyens devant les autres. Monsieur le maire, ça fait plus d'un mois que j'essaye de vous contacter à propos de ma construction. Vous voyez, des trucs un peu débiles comme ça. Mais du coup, qui force le maire à dire « Ah oui, oui, je vous ai bien. » Enfin, en fait, on joue sur plein de tableaux un peu différents, un peu marrants, quoi.
Mais avec la communauté de communes, les maires n'ont plus d'importance.
Si, quand même. La communauté de communes, bah là en l'occurrence c'est marrant parce que justement c'est une communauté de communes d'Erdéjev où il y a 17 communes je crois, dont les 4 où, sur lesquelles il y a la ZAD. Mais c'est quand même les maires qui ont le truc de signer à la fin les permis de construire, quoi. La différence c'est qu'ils sont aidés par la communauté de communes, quoi. Mais je pense que, alors je ne suis pas un spécialiste mais je suis à peu près sûr que ça n'enlève pas leur prérogative de maire. C'est juste qu'ils ont des mises en commun de certaines choses, quoi.
Les différentes compétences entre les communautés de communes et la mairie, mais pour les permis de construire, c'est toujours la mairie.
S'ils le veulent.
Voilà. Ah, et après, le PLUI doit se confondre, doit être, il est inférieur au PLU, le plan local d'urbanisme de la commune, il est inférieur au plan local d'urbanisme intercommunal. Donc,
et même si le préfet qui peut intervenir sur le plan local d'urbanisme, puisqu'il y a un cas dans le Gard d'agriculteurs bio qui ont fait d'ailleurs un tract sur internet parce qu'ils arrivent au moment de la retraite et ils veulent garder leur maison pour habiter, ils veulent vendre les terres, il y a une interdiction de bâtir. Oui, posé par la préfecture, de façon à ce que les terres passent dans un autre mode agricole que bio. Ouais.
Mmh. Mais la mairie, la préfecture, c'est marrant parce qu'elle a justement fait un article cette semaine en disant, c'était un peu pas clair, mais elle disait en gros par rapport au permis de construire qu'elle aurait un peu un regard un peu dessus, qu'en même temps elle voudrait pas. Mais elle est concrètement dans le droit. La préfecture, elle a un regard sur des choses qui dépassent les compétences des maires. Mais du coup, c'est pas l'agricole ou l'habitat. C'est quand tu mets une éolienne, quand tu mets des trucs électriques, des infrastructures. Mais là, nous, ce qui nous concerne, ils ont pas vraiment, ils sont pas censés faire ça. Mais là, c'est différent. C'est juste, c'est parce que c'est la ZAD, c'est un contexte particulier. Du coup, ils gardent un peu un espèce de. C'est qu'en fait, ils sont mis en tant qu'arbitre depuis le début. Du coup, ils sont obligés de continuer ce rôle-là et jusqu'au bout, quoi, pour un peu faire avancer les choses, quoi. On va bien voir. Mais là, plutôt, quand on a pesé les permis, on a eu deux articles. Nous, en plus, on a un peu merdé sur différentes choses quand on a posé les permis. Enfin, il y a des choses qu'on aurait aimé qui se passent autrement, mais c'est pas très grave. Mais toujours est-il qu'on a été étonné que le lendemain, il y a le maire de Notre-Dame-des-Landes qui a dit « Ah oui, non, mais là, les permis qu'il pose, c'est pour de l'agricole, ça va très bien se passer. Et puis, de toute façon, pour l'habitat léger, il existe des réglementations, des choses sont possibles. » Tant que c'est démontable. Du coup, on était là en mode, waouh, il est hyper open là d'un coup, alors que plutôt c'était pas un pote à la base, quoi. Et par-dessus, il y a le préfet qui a fait un article où tout n'est pas rose, où il parle quand même un moment d'expulsion, de destruction. Il dit oui, si vraiment il faut, on le fera. Mais on sent qu'il le dit pas en mode comme un coup de pression. Il laisse juste savoir qu'on est quand même en capacité, quoi. Et à côté de ça, il dit un truc complètement fou. Il dit, l'État doit être en capacité d'intégrer les utopies, ou un truc comme ça, quoi. En parlant de Notre-Dame-des-Landes, t'es là, waouh! Et quelques lignes plus tard, il dit ce qui est important dans le droit, c'est surtout son interprétation, un truc comme ça. Et là, t'es là en mode, bah, nous, c'est quand même pas, si on doit se battre sur ce plan-là, c'est en effet ça qu'on va se battre. On va dire, en fait, nous, il faut que vous interprétiez vos lois et tout. Mais du coup, d'avoir le préfet qui dit ça avant nous, on est un peu en mode, c'est un peu bizarre, en fait, cette période. D'autant plus qu'on sait que, comme je disais, le conseil départemental, il est en mode, il assume ouvertement le truc de la ZAD comme vitrine écologique, quoi. Et du coup, c'est une navigation un peu particulière, là, en ce moment, quoi. Entre tout ça, quoi. Où tu te retrouves, tu sais, t'as l'impression, des fois, de bien t'en sortir, parce que tu sens qu'ils vont pas, ils veulent pas que ça reparte en poudrière, ça, c'est clair. Mais en même temps, est-ce que vraiment ça partirait compliqué si ça continuait, je sais pas. Mais du coup, des fois, tu dis, ah, on a du rapport de force, ça se passe bien, on va réussir à ce qu'on veut. Puis des fois, tu te dis, en fait, juste, ils sont en train de nous mener en bateau parce qu'il y a un truc là où ils ont un plan qui se passe bien, quoi. C'est assez dur, hein, à savoir, quoi. Après, des fois, moi, je faut le remettre en regard de trucs historiques plus larges et de périodes où on en est, quoi. Il y a aussi des jours où, moi, quand je vais en manif ou quand je écoute les infos, je me dis, vu comment ça risque de craquer un peu partout, il ne faut pas qu'on s'inquiète trop pour nous, quoi. Aussi, c'est plus on peut constituer une force et une base arrière, plus ce sera ça de gagner au moment où il y en aura besoin, quoi. En fait, c'est aussi comme ça qu'on voit les choses, quoi. Je pense qu'on est beaucoup à... Tous ceux qui trouvent la force de rester sur zone malgré la complexité de cette histoire, de tout ce que je disais, je pense que c'est aussi en grande partie parce que moi, si j'étais pas là, je serais sûrement en masse avec Rémi et les autres parce que ça fait sens aujourd'hui de se dire il faut constituer des bases arrières, quoi. Et il y a plein de formes de bases arrières différentes, quoi. Mais celle-là, elle est un peu grandiose, quoi. Le jour, ça fait plaisir d'y retourner, quoi. Dans
le fossé. Oui, historiques, quand on parle d'agriculteurs, tu disais qu'il y a aussi des éleveurs. Il y en a.
Ouais,
parmi les historiques, c'est quoi comme proportion entre agriculteurs
et... quand je dis agriculteurs, c'est éleveurs, c'est la même chose. Hein. Ouais. Les historiques, c'est que des éleveurs.
C'est que des éleveurs.
Sur zone, c'est une terre qui ne se prête qu'à l'élevage bovin. Il n'y a que des laitiers. Il y avait 4 ou 5 éleveurs à la fin, là, en 2018. Et encore aujourd'hui. C'est juste qu'il y en a un, on se sent un peu moins pote avec lui là depuis un certain temps. Parce que c'est hyper instructif ce genre de lutte, parce que tu vois aussi les entre guillemets trahisons qu'il peut y avoir, parce que j'ai pas parlé en 2018 de comment on s'est senti trahi, moi en partie un peu par pas trahi, mais le truc des agriculteurs là sur la route, j'ai trouvé que c'était un rapport à une prise de position qui était un peu bourrine et que ça fait pas plaisir. Il y a d'autres moments où j'ai trouvé que ça jouait pas très fin. Et puis surtout, il y a des figures emblématiques de la lutte, comme Julien Durand, qui est le président de la CIPA, qui nous parlait dans les médias de trucs, mais d'une façon que c'était un coup de poignard dans le dos. Pareil, Françoise Vercher, qui était au collectif des élus, là, il y avait aussi un gros collectif d'élus opposé au projet d'aéroport. Il y a des gens qui ont eu des paroles dans la presse, c'est horrible, quoi. Et pareil, là, il y a un des agriculteurs de la zone où, depuis l'abandon, c'est celui qui s'est le plus grossi, je ne sais plus combien, il a de dizaines ou de centaines d'hectares, enfin c'est pas que des dizaines, c'est sûrement 150, 200, je sais pas combien, mais il a énormément grossi, il veut faire aucun échange. Les engagements qu'on avait pris entre nous là avec les 6 points où on a essayé de poser ensemble des choses, il y en a plein en fait qui les ont complètement foulés du pied et ça fait mal aussi, quoi. Et donc en tout cas, ce que je disais, ouais, il y en a 4-5 éleveurs sur zone qui sont. Enfin, de ceux qui sont restés, qui avaient leur siège d'exploitation sur zone, ils sont 4, je crois. Et c'est tout, c'est que du bovin. Et tous les agriculteurs qui suivent la lutte, pour la plupart, c'est tous des éleveurs, quoi. Parce que c'est une zone où ça s'y prête. Il n'y avait pas de marais. Après, nous, sur zone, il y a des gens qui sont installés en maraîchage. On croise des maraîchers aussi aux alentours, quoi. Mais les historiques, c'est tous des éleveurs bovins.
Que les maraîchers, justement, ils ont creusé des forages et ils ont des systèmes d'irrigation avec un groupe électrogène, électrique, comment ils font pour l'eau?
C'est une zone humide, du coup, il n'y a pas vraiment besoin. Je dis ça en plus, c'est pas vrai. Oh. Hein. Je dis c'est pas vrai parce que l'été, quand même, il y en a. Mais le maraîchage qui est juste à côté de chez nous, on a de l'eau du réseau et il y aura peut-être un forage qui va être fait. Okay. Mais on est le prix des forages, on est en train d'y penser. C'est en cours, quoi. C'est des investissements, du coup, tu vois, genre jusqu'à aujourd'hui. C'est aussi ça quand je disais, ah oui, c'est ça tout à l'heure quand je disais le truc de comment ça s'est formalisé.
Bon retour.
Merci. Sur le truc de comment. C'est aussi ça, avec l'abandon de l'aéroport aussi, ça fait que t'as des trucs où c'est plus facile de dire bon bah je vais investir un peu d'argent, quoi. Y en a qui l'ont fait avant l'abandon et qui ont pris ce risque aussi, mais bah, c'est plus dur de prendre des risques sur les scènes. Même s'il y a des gens dont un, je pense, qui a mis en place une exploitation laitière 2 ans avant l'abandon de l'aéroport, quoi, tu vois, en 2015 ou 2014 même. Ça, c'est... On ne se rend pas forcément compte de ce que ça représente, mais c'est un truc de tu mets tes billes à faire une exploitation sur un terrain où il doit y avoir un aéroport. Quoi. Il faut quand même soit y croire, soit pas avoir peur de perdre beaucoup. Si vous voulez de cette bière, faut pas hésiter. Hein.
Bah, merci en tout cas.
Ouais, c'est super. Moi j'étais resté les derniers échos que j'avais eu en direct, c'était des gens qui avaient passé quelque temps et qui nous parlaient justement de l'affrontement entre ceux qui étaient prêts à signer et ceux qui refusaient. Et qui disaient bon c'est malsain parce que c'est finalement on a fait des trucs ensemble et on se retrouve à pas être d'accord et à faire que certains vont partir quoi, parce que
voilà. Ah, mais cette phase humainement elle est horrible. Moi j'ai trop badé après les expulsions pendant un an, c'était trop. Enfin, c'est dur, moi j'essayais pas trop y penser, en plus j'avais écrit le bouquin, et je voulais pas me retrouver à faire le l'avocat d'une ou d'une autre partie, quoi. Genre, mais je me suis retrouvé moi en plus, je sais pas, genre 6 mois je crois après les expulsions, à partir présenter le bouquin un peu à droite à gauche, et du coup à me retrouver face à des gens qui justement avaient ressenti plutôt l'un ou l'autre, enfin plutôt des gens qui étaient dégoûtés de la ZAD, quoi. Je me suis même retrouvé vers Bure, des gens qui m'ont jeté de la peinture dessus parce que pour eux je représente la partie de ceux qui sont restés et tout ça, quoi. Et c'est sûr que ouais, c'est cette phase-là, c'est un moment humain, t'es là en mode wow, c'est trop chaud, quoi. Trop trop chaud, quoi. Ouais. Puis c'est dur de prendre parti, même aujourd'hui, j'arrive pas à. Tu vois, c'est dur d'en penser quelque chose, quoi. Et même quand t'es... Et c'est pour ça que c'est. Il y a un truc hyper bien sur place et en même temps un truc un peu dur, parce que moi je peux pas. Enfin, j'arrive pas à juste me dire, allez, c'est bon, on a fait le bon choix, on a tous ceux qui avons fait le bon choix, on est resté là, c'est cool, puis c'est pas ça qu'il y a à penser, quoi. Du coup, t'as toujours quand même un truc qui plane sur. Et je me dis pas qu'il y en a un, il y avait des qui avaient raison, d'autres qui avaient tort, quoi. Ça te renvoie aussi à une complexité du monde et de l'humanité. Enfin, je sais pas, moi je l'ai lu comme ça, c'est peut-être un peu relativiste comme façon de voir les choses, mais pour moi je suis face à une espèce de. J'ai eu l'impression d'arriver au. Et c'est là où c'est dur de ne pas perdre espoir, parce que tu te dis. Enfin, tu peux pas perdre, enfin, je ne veux pas le dire comme ça vraiment, mais de. Ouais, de pas être un peu morose, quoi, parce que t'as un truc de. Ah ouais, en fait ça t'amène là, la complexité humaine dans ça, quoi. Avec que des gens qui veulent bien faire, que des gens que je trouve magnifiques. Et de la complexité humaine, et aussi des gens qui divaguent et machin, mais quand même dans ceux qui sont partis, moi il y a énormément de gens que j'admire profondément, quoi. Et dans ceux qui sont restés, il y en a que j'admire profondément, et en même temps que je suis saoulé de certains de leurs comportements. À l'inverse, dans ceux qui sont partis, il y en a que j'admire profondément, et en même temps que je trouve qu'ils ont des défauts trop chiants, quoi. Mais du coup t'es là en mode merde, tu vois, tout ça, et puis t'arrives pas à te mettre d'accord, enfin tu vois, il n'y a pas un truc fluide qui arrive et que ah ouais on y arrive, on... Et ça c'est un peu dur.
Moi je suis allé une fois sur la ZAD, c'était en l'été dernier, au chantier de construction de terre, l'avant-garde de l'avenir, où t'es pas allé justement, le seul chantier que t'as pas fait. J'y suis allé en fait pour suivre une formation. Bon, j'étais quand même curieux de connaître la ZAD, mais je suis vraiment allé là-bas parce que c'était un formateur pro qui faisait une formation, moi je suis dans le courant. Et il donnait sa formation. C'était 2 jours de théorie et 4 jours de pratique. On était logés, nourris, les pieds sous la table tous les jours, avec de la bouffe qui venait de la ZAD partout, les confitures, le beurre, la viande. C'était assez impressionnant. Et clairement, j'avais mon sentiment en y allant, c'est que j'étais pas à la ZAD normale, quoi. J'étais pas à la ZAD qui était la ZAD avant l'expulsion. Et en fait, j'avais l'impression que c'était le. Enfin, finalement, la ZAD d'aujourd'hui, c'est un peu ce que tu racontes, c'est les constructifs, quoi. Mais il me semble qu'il y a une toute petite minorité de personnes, peut-être 2 ou 3 personnes, en fait, je ne sais pas si elles existent toujours, qui sont restées à la ZAD pour faire comprendre à ceux qui sont restés que ce sont des traîtres, quoi, en gros, les invendus. Les invendus disent vous êtes des vendus. Enfin, moi, et je me suis baladé en vélo et je voyais sur les routes, il y a un petit village qui s'appelle Saint-Jean du Tertre. Ouais, il l'avait renommé Saint-Jean du Traître. Et il y avait plein de signaux qui étaient envoyés comme ça par ceux qui étaient hyper frustrés de la manière dont les choses ont évolué. Mais en t'écoutant, enfin, faut pas se tromper d'ennemi. Quoi. On sait qui est l'ennemi, c'est l'État qui est expulsé. Sur, au point de vue individuel, il y a pas, enfin, moi c'est ce que je me dis, il y a pas de jugement. Parce que ce que tu dis là, j'ai eu des échanges sur ça, quoi, des personnes qui sont restées pour construire, produire, etc. Et qui étaient un peu tiraillées, quoi, parce que à la fois ceux qui se disent les invendus, ceux qui sont restés puristes, quelque part les ramènent sur une forme de vérité philosophique. Quelque part existe quelque chose de juste. Et en même temps, enfin, il n'y a pas de qui a raison, qui a tort. Enfin, à un moment donné, c'est plus la même ZAD, ça je pense, c'est plus la même ZAD après 2018. C'est peut-être même plus une ZAD, mais voilà, c'est peut-être une future université populaire, je sais pas. Voilà.
Ouais, c'est sûr que c'est pas sur les gens en particulier, mais ce qui est dur, c'est sur les choix que ça a fait, les embrouilles que ça a fait, C'est quand même des choix, des moments, tu vois. C'est politique aussi, quoi. C'est pour ça que ça tiraille. Et qu'on est beaucoup à vivre sur zone et à... Il y a encore beaucoup de gens qui vivent sur zone et qui se demandent s'ils veulent rester. C'est un peu comme si... Je sais pas trop... J'ai par exemple beaucoup d'échanges sur le sexisme et le féminisme en ce moment avec des copines, tu vois. C'est comme si t'es sur un lieu qui est hyper féministe. En fait, c'est pas que comme si, c'est. Et qu'il se passe un truc, ce lieu se transforme. Et que tu trouves que le niveau de féminisme, il a complètement baissé. Bah tu te demandes, est-ce que je dois rester pour le porter dans ce lieu, tu vois? Pour aussi que, parce que ce lieu c'est important qu'il le porte, ces trucs-là. Ou est-ce que je me barre aussi? Et je l'abandonne à sa médiocrité aussi sur certaines choses, tu vois. Enfin, c'est un peu... De le dire comme ça, en le disant, je trouve que ça peut paraître trop... c'est pas moi qui porte ça, mais je sais pas, j'essaye de retranscrire le comment on peut être tiraillé. Mais c'est pas que ça, en fait, parce qu'en fait, en vrai, il y a d'autres gens qui portent ces choses-là, mais... Et c'est questionnant. C'est pour ça que c'est questionnant. C'est pas juste... C'est sûr que moi, c'est pas les individus, et c'est... Chacun a fait comme il a... Et c'est pour ça que c'est dur, en fait, émotionnellement, ce que ça produit. C'est clair que moi, les gens qu'il y a, je les kiffe. Mais ce que je kiffe pas, c'est le déséquilibre. Enfin, il y avait une forme d'équilibre sur certaines choses. Et que ça fait peur que ça bascule vers autre chose. Et en effet, tu peux juste te dire, bon, bah, je vais peut-être me barrer, tu vois. Ou... Enfin, c'est comment se sentir à l'aise avec ça, en fait. Je sais pas comment dire. Bref, mais c'est toujours... Comme c'est bon, je le disais à Rémi avant de venir, c'est ce lieu-là, tu le sors de son histoire. Toutes les dynamiques, tu poses pas de questions, elles sont géniales. Ce qui est compliqué, c'est le terreau de cette lutte et l'histoire de cette lutte, et que ce qui existe aujourd'hui, c'est aussi grâce à l'énergie de plein d'autres gens, et que tu... C'est aussi... Je parlais de rituel tout à l'heure, tu vois, l'énergie des gens qui ont été déçus, elle résonne encore, tu vois. Forcément, c'est obligé qu'elle résonne encore. Et que des milliers de gens aient mis une énergie pour que quelque chose existe et se sentent dépossédés, pour pas dire trahis, de ce qui a été fait, et sont tristes de ça, bah ça crée une difficulté, quoi. Mais moi je trouve que faut le prendre du côté constructif aussi, quoi. Tu vois, que nous on s'en souvienne, que les gens qui restent, ils restent aussi pour des raisons, et aussi tu vois, sur la question du féminisme, ce que je disais, c'est que juste avant de partir, j'ai eu une discussion là-dessus, et moi je sais pas trop, enfin ça me tiraille de comment me positionner, mais il peut y avoir l'histoire de ce territoire est long, et peut-être que justement à un moment il va réattirer des formes qui vont ramener aussi du souffle à certaines luttes qui doivent être menées, quoi, tu vois. C'est pas immuable, quoi. Mais c'est complexe. Tu veux qu'on arrête? De toute façon, après, on peut faire du off.
Non.
C'est interdit.
Ah, non, je veux pas, moi. Non.